Bonsoir. Voilà, ça va mieux. Moi, je suis ravie que vous soyez aussi nombreux ce soir avec nous. C'est vraiment superbe de vous avoir toutes ici. Donc, c'est une soirée exceptionnelle, comme vous le savez tous. Nous avons le grand plaisir ce soir. Il n'est pas là. Si, il est là, Alain. Viens nous rejoindre. C'est avec un grand plaisir, grand plaisir et beaucoup d'émotion ce soir que nous recevons Alain Damasio. Merci Alain. Alors merci Alain d'avoir fait le chemin jusqu'à nous, parce que Chambéry en Savoie, c'est pas simple pour venir jusque-là. Et je savais que vous aviez un emploi du temps chargé pour ce mois de décembre, donc vraiment merci mille fois d'être avec nous. Vous nous parlerez ce soir de vos romans et en particulier du roman incontournable que tout le monde connaît qui est La Horde du Contrevent. Donc aux éditions La Volte et aux éditions Folio SF aussi. Des surprises nous attendent ce soir mais je n'en dévoilerai pas plus. Pour l'instant, vous aurez tout le temps de découvrir ce qui va se passer pour cet événement. Alain, vous êtes accompagné ce soir par un ami qui est de notre région, je dirais presque de notre région, c'est un Haut-Savoyard, Emeric O'Cornes, qui est avec nous, qui est comédien, et qui sera là ce soir et qui fera le plaisir de nous faire quelques lectures. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous êtes entouré par deux charmants jeunes auteurs, Claire Crust, pour son premier roman « Les neiges éternelles » aux éditions ActuSF, qui était le coup de cœur d'Evelyne pour la rentrée littéraire. Pour ceux qui étaient là à la soirée de la rentrée littéraire, Evelyne et Ben nous ont fait un sketch incroyable sur les neiges éternelles, donc elles pourront vous en parler aussi ce soir. Et Chloé Chevalier, pour son premier roman aussi, Méridienne, tome 1 aux éditions Les Moutons Électriques et un tome 2, j'espère, très bientôt. Alors, je voulais en profiter aussi pour saluer un auteur chambérien qui est là parmi nous, qui est caché dans le public, je ne le vois pas, qui est Jean-Laurent Belsocoro. Jean-Laurent, montre-toi. Alors, il vient de publier donc aux éditions ActuSF « Royaume de vent et de colère » et qui vient d'obtenir le prix Elda King, qui n'est pas rien. Donc, c'est vrai qu'on peut l'applaudir. Et il restera... Il restera avec nous en fin de soirée. Et pour ceux qui connaissent déjà Jean-Laurent ou qui ne le connaissent pas, d'ailleurs, pourront aussi se faire dédicacer son livre. Alors, pour terminer, je voulais remercier quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur dans cette librairie, qui est un partenaire important, qui s'appelle Jérôme Vincent, qui est directeur des éditions ActuSF, qui est là. Tout sans lui, cette soirée n'aurait jamais pu se faire. Alors Jérôme, tu as toute ma reconnaissance éternelle devant tous ces témoins. Alors laissons place maintenant à cette soirée qui sera dirigée par une main de maître, Evelyne et Maëlle, deux libraires passionnés, Evelyne, Maëlle devant moi. Et nous commençons donc la soirée avec Chloé Chevalier. Nous allons commencer donc la soirée avec Chloé Chevalier pour Véridienne. Mais avant tout, nous allons vous remettre en mémoire ce qui est la littérature de l'imaginaire. À toi la parole.
Alors bonsoir tout le monde. Pour remettre rapidement les littératures de l'imaginaire, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, elles sont séparées en trois catégories qu'on a essayé de représenter ce soir. Donc il y a la science-fiction, la fantasy et le fantastique. On vous laissera voir dans la soirée qui fait quoi. Et globalement, la science-fiction est très connue pour être ce qui se passe dans le futur avec des vaisseaux et des extraterrestres, mais pas que, et on le trouvera avec un des auteurs. Il y a la fantasy qui est très connue pour être comme du Tolkien, qui se passe dans un univers totalement inventé avec plein de créatures, mais pas que, comme le montrera une des auteurs ce soir. Et le fantastique qui est aussi connu pour se passer dans notre monde à nous avec l'apparition d'un élément surnaturel. Alors là, oui, comme nous le montrera une auteure ce soir. Donc on va laisser la parole d'abord au comédien qui va vous présenter le roman, un extrait évidemment du roman de Chloé Chevalier.
Alors, c'est une lettre de Lufthilde des Epona et de Nercès de Véridienne. Voilà ce que ça raconte. Parmi les nombreuses coutumes au fondement du royaume du demi-loup, il en est une que nous tenons particulièrement à évoquer, tant elle est étroitement liée à ce que nous fûmes.
Si je parle comme ça, vous m'entendez ?
Oui, c'est mieux. Parce que le micro... Hein.
Parmi les nombreuses coutumes au fondement du royaume de demi-loup, il en est une que nous tenons particulièrement à évoquer, tant elle est étroitement liée à ce que nous fûmes. À la naissance d'un enfant royal, le père doit partir le jour même à la recherche de celui ou celle qui accompagnera toute sa vie le jeune prince, qui sera son miroir, son confident, son compagnon le plus proche, la moitié de son âme. Le suivant doit être du même sexe que le prince et d'un jour son cadet, être né le jour suivant d'où il tire son nom. Nous ne savons pas qui a été le premier roi à désirer un suivant pour son fils, mais toujours est-il que c'est à l'ombre de cette coutume que nous, Nerses et Lufthilde, suivantes du demi-loup, vécûmes la plus grande partie de nos existences. Nous avons décidé d'écrire notre histoire, certes, mais toutes deux ayant été les dernières suivantes de notre temps, qui pourra encore comprendre, parmi les générations à venir susceptibles de lire notre ouvrage, ce que représente véritablement pour un roi ou une reine un suivant, et l'importance du rôle que nous et nos semblables tîmes dans l'histoire du royaume. La coutume des suivants, après avoir été durant les deux derniers feux de son existence trop souvent négligée, déformée et bafouée, ne renaîtra vraisemblablement jamais. Mais même si nous n'avions pas été intimement forgés sur l'enclume de cette tradition, nous aurions éprouvé, parvenus au seuil de la vieillesse, le besoin essentiel, inaltéré, de témoigner. Afin que nul n'oublie les rois et les reines que nous avons connus et aimés, et dont nous fûmes, nous le comprenons maintenant, la mémoire et le creuset. Afin que nul n'oublie le demi-loup, tel qu'il fut aux heures lointaines de notre jeunesse, car combien furent troubles, combien furent brûlants les règnes que nous traversâmes. Et afin, tâchons de ne pas nous mentir, que nul ne nous oublie. Quelle que soit la vanité et les motifs de cette entreprise, traçons donc, ici même, d'une plume partagée, les lignes entrelacées de nos vies. Tentons, côte à côte, de rassembler les souvenirs mêlés de nos deux existences, de retrouver nos sentiments passés et de les fixer d'un trait, guidés par la lucidité que donne l'âge. Et puisque nous ne fûmes certes pas les uniques témoins de cette époque, nous puiserons également, pour compléter notre récit, dans les journaux que tinrent certains des grands de ce temps révolu, dans les missives qu'ils échangèrent et dans toutes les autres traces qu'ils laissèrent dans leur sillon. Ainsi partirons-nous de ce que nous sommes, pour compter ce qui fut. Et c'est signé Lufthilde de Epona et Nerses de Viridienne.
Merci. Alors, merci beaucoup Aymeric pour cette lecture. Avant de parler un peu plus avec Chloé Chevalier, je vais vous parler en quelques mots de son livre et de ce qu'il traite. Donc ce roman, il nous conte l'histoire du demi-loup. Qu'est-ce que le demi-loup ? C'est un petit royaume entouré de plus grands pays, alliés ou ennemis. Il est divisé en deux. Nous avons d'un côté les Epona et de l'autre côté Viridienne. C'est un royaume fait de coutumes ancestrales, mais dont les traditions commencent à battre de l'aile. Une des coutumes les plus importantes, c'est, comme vient de nous le dire Aymeric, celle des suivants. Donc un suivant, c'est un héritier royal. En tout cas, un héritier royal se voit désigner dès le lendemain de sa naissance un nouveau-né qui le suivra toute sa vie, qui sera toujours proche de lui. Sauf qu'à l'époque dont nous parle ce livre, nous avons une princesse de Viridienne et une princesse des Epona, mais par contre trois suivantes qui les suivent. Ainsi que d'un côté le prince héritier de Viridienne qui lui en est dépourvu. Donc ce déséquilibre va se ressentir tout au long du roman et va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc ici on nous raconte les relations complexes que ces protagonistes entretiennent entre eux. La chose originale dans ce roman, c'est que le point de vue ne nous est pas donné par les héritiers, ceux qui sont mis en lumière, mais par ces personnages de l'ombre, ceux qui se tiennent juste à côté du pouvoir et de la gloire. Donc, ce roman se découpe donc en plusieurs narrateurs qui se remémorent leur jeunesse pour ne pas oublier le demi-loup tel qu'il fut autrefois. On est loin du récit traditionnel et linéaire, puisque pour remonter à la source de leurs souvenirs, les protagonistes cèdent de missives de l'époque, d'extraits de journal intime, d'échanges épistolaires et de différents témoignages. C'est une véritable chronique que nous offre ici Chloé Chevalier. D'un côté, nous avons donc les héritières royales et leurs suivantes, à la cour un peu coupée du monde, qui essayent de comprendre tant bien que mal leur rôle. Et de l'autre, nous avons l'action, nous avons la guerre, la peste qui ravage les frontières, avec le récit du prince héritier de Véridienne, qui est parti bien trop jeune à la tête des armées. Donc le décor est planté dans ce premier tome, on a les intrigues de cour, les relations qui s'y jouent, et les événements tragiques qui vont s'y dérouler, qui vont changer profondément le royaume du demi-loup. Donc c'est une belle promesse ici, on sent la tempête arriver, et on espère ardemment la suite. Alors, bonjour Chloé Chevalier. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter un peu à nous ?
Oui, alors rapidement. J'ai 27 ans, je suis originaire de Saône-et-Loire, donc pas très très loin d'ici. Et sinon, je suis scénariste, je ne fais pas de la fantasy. Voilà. Et productrice aussi d'une certaine façon, parce que j'ai juste d'autres courts-métrages.
D'ailleurs, à propos de film, j'ai appris que, avant tout, ce roman était un film amateur. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est l'anecdote de départ, on va dire. Mais oui, à l'origine, c'était un film que j'avais tourné avec mon groupe de copines quand j'étais au lycée. Voilà. Donc, j'avais écrit le scénario. C'était dans mes premières expériences d'écriture un peu longues et surtout de scénario. J'aimais bien l'histoire. Je me disais, oh tiens, et si j'en faisais un roman. Au début, ça devait être un seul tome et ça s'est élargi petit à petit pour devenir une série. Mais oui, voilà, à l'origine, c'était un scénario.
Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui changent quand on passe d'un scénario à un roman ? Comment ça se passe ?
Alors, en règle générale, pour ce cas particulier, oui, beaucoup de choses. J'avais écrit ça, comme je dis, c'était un film amateur au lycée, tourné sans argent. Donc, oui, j'écrivais en fonction de ce qui est possible de faire après avec un groupe de cinq films, de cinq filles, deux poneys, et puis je sais pas quoi, mais forcément, une fois qu'on passe au roman, on est vachement plus libre de rajouter tout ce qui était en voix off et dans le hors-champ à l'origine, donc je sais pas, des guerres, beaucoup de figurants, beaucoup de personnages, donc oui, ça change complètement, c'est sûr.
Vous l'avez écrit en combien de temps comparé au scénario ?
Alors, le tome 1, j'ai commencé à l'écrire quand je sortais du lycée, donc bah, ça va faire 10 ans maintenant. Le truc c'est que j'ai commencé à l'écrire, ben, j'avais 17 ans. D'une part j'avais pas les mêmes préoccupations à dire à l'époque que maintenant, j'écrivais pas pareil, voilà, j'étais une ado. Quoi. Donc du coup forcément j'ai moi-même beaucoup changé dans les années qu'on suivit et le tome 1 il a fallu le reprendre plusieurs fois pour le faire mûrir un peu. Tout mais en parallèle, je continuais d'écrire des autres tomes. Donc voilà, ça fait longtemps que je travaille dessus, mais j'ai pas bossé non plus. Dessus. Il y a eu plusieurs versions très très différentes les unes des autres. Moins dans les tomes suivants, mais dans le premier tome, un peu plus.
Et la façon de raconter l'histoire, qui n'est pas du tout d'une manière traditionnelle et linéaire, qui voilà, vous faites appel à des extraits de journaux intimes, des missives, etc. Ouais. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça apporte en plus au roman ?
Ça apporte en plus, je pense, qu'il n'y a aucun point de vue... entre guillemets objectif qui nous est imposé sur l'histoire. Puisqu'on a un certain nombre de personnages, donc dans le tome 1 ça se voit moins, parce que globalement ils sont tous à peu près potes, du coup ils ont les mêmes avis sur la chose. Mais plus ça va avancer, moins ils vont être d'accord sur les événements qui se passent et comment on les interprète, etc. Du coup, j'espère, si ça marche, que ça sera au lecteur de se faire son avis sur ce qui se passe. J'essaie de ne pas imposer un point de vue, voilà, c'est ce que j'essaie de faire.
Une des autres originalités de ce livre, c'est justement les suivants, comme on en parlait. D'où vient cette idée ? Quelles ont été les influences par rapport à ça ?
Alors, influence, je ne sais pas. À l'origine, les suivantes, c'était des suivantes comme au sens historique du terme, enfin les dames de compagnie, quoi, tout simplement. Et puis finalement, en commençant l'écriture, je me suis rendu compte que ces simples dames de compagnie, il y avait matière à faire plus intéressant. Donc voilà, j'ai gardé le nom, c'est un peu un jeu de mots, et j'en ai fait totalement autre chose. Après, il n'y a pas d'inspiration particulière.
C'est vrai que là, elles ont un vrai rôle à jouer.
Complètement, en fait, c'est en gros à chaque personne qui va être amenée à un moment donné à occuper, à être une personne publique, à avoir une position de pouvoir, on va appeler quelqu'un d'autre qui va être là pour un peu pour le surveiller, pour le remplacer, pour le surveiller, pour le conseiller, pour lui dire attention, là tu déconnes, tu vas prendre un. Et c'est ce que les filles, là, dans le tome 1, doivent prendre conscience petit à petit. Ça va être.
Et pourquoi choisir justement le point de vue des suivantes et pas faire appel aussi au point de vue un peu plus des princesses Pourquoi choisir l'ombre à la lumière, j'ai envie de dire.
Bah, ça me semblait plus intéressant, c'est juste elles sont là jusqu'au bout, elles voient tout avec un petit peu plus de recul. Et leur rôle est un peu plus compliqué parce que justement, c'est pas elles qui ont le pouvoir, mais quand même si. Plus indirectement.
C'est elles qui sont la mémoire, en fait, du royaume.
Entre autres, oui.
La plupart des personnages aussi sont féminins. Oui. C'est quasiment la totalité, à part le prince, qui est vraiment important. Pourquoi ce choix aussi? Pourquoi si un livre autant féminin?
Alors, d'une part, à l'origine, voilà, c'était ce fameux film que j'avais fait, on n'était que des filles, alors il fallait faire que des personnages féminins. Non, et tout simplement, non, mais c'est aussi bête que ça, à l'origine. Après, j'aurais pu changer ça, tout à fait. D'ailleurs, j'ai rajouté le personnage du prince, qui n'existait pas.
Vous l'avez rajouté après, celui-ci.
Enfin, j'ai développé après coup, ouais. Mais juste parce que ça m'intéressait, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, le fait... comment ça fonctionne très concrètement, pour le Thomas en tout cas, un groupe d'adolescentes un peu livrées elles-mêmes. Les dynamiques de groupe m'intéressent.
C'est presque autobiographique en fait.
Oui, un petit peu, dans certains rapports humains, oui.
Et alors, vous avez écrit du coup une suite?
Oui, tout à fait, ouais. Oui.
Quand le tome 2 est prévu?
Alors, donc, le tome 2 il est écrit, je suis en train de finir de le reprendre là. A priori, les moutons veulent le sortir l'août prochain, pareil. Et ça serait un par an, donc le 3 est aussi écrit. Donc, normalement, sur les 3 premiers tomes, ça va s'enchaîner à peu près régulièrement. Et après, c'est moins sûr.
Ça serait plus que 3 tomes?
Oui, il y en a 5.
5 de prévu.
En fait, je voulais faire 4, mais visiblement, les deux derniers auraient été beaucoup trop gros, alors on m'a conseillé de les couper peut-être. Subdiviser différemment.
Vous nous prévoyez de bonnes lectures en perspective et plein de rebondissements, j'imagine.
Oui, oui, davantage dans la suite d'ailleurs.
Eh bien, merci pour cette présentation sur votre roman. Alors, Evelyne l'a lu en entier, moi je suis en train de le lire, donc c'est bien qu'on ne soit pas trop rentré dans les détails, je ne saurais pas trop spoiler. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de suivre. Ce royaume du point de vue de plein de missives différentes et de plein de personnages, ça donne vraiment de la couleur au roman et c'est ce que j'ai, pour l'instant j'apprécie beaucoup dans ma lecture. Donc un exemple de roman de fantasy qui ne se passe pas forcément que avec des elfes, des orques, même si c'est aussi très bien, il existe d'autres choses écrites par des Français qui sont très bien. On peut enchaîner maintenant avec un roman fantastique Ah oui, Martine n'a pas prévenu, mais si vous avez des questions à poser aux auteurs, il y aura une partie à la fin qui vous sera réservée, que ce soit pour Alain Damasio, Claire Crut ou Chloé Chevalier. Du coup, on enchaîne avec un roman fantastique au sens propre du terme, où il n'y a pas vampire, loup-garou ou tout ce qu'on peut voir en ce moment. C'est un roman fantastique où on est toujours à se demander est-ce que c'est vraiment qu'une ambiance ou est-ce que c'est réel, avec des apparitions d'esprits, et c'est vraiment toute une ambiance qui est développée. Donc, Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust.
Ah oui, il extrait. C'est à toi.
Au revoir.
Ah, j'étais là que pour...
travailler, excusez-moi.
Je vais me mettre debout. Je veux ta main. Tout en rassemblant le nécessaire à calligraphie, Takeshi se demanda s'il aurait obéi si jamais Akira l'avait entendu au sens propre du terme. Couper sa propre main, entamer sa propre chair et perdre une partie inhérente de lui-même. Il aurait hésité, mais il n'aurait pas supplié. Il l'aurait regretté, mais il n'aurait sans doute pas refusé. Takeshi déglutit à cette pensée en espérant qu'Akira ne perce pas ses inquiétudes. Le fantôme était assis sur le tatami. Toutefois, il n'avait pas pris l'une de ses poses nonchalantes, mais se tenait formellement à genoux, le dos parfaitement droit, les mains délicatement posées sur ses cuisses, le menton haut et les cheveux pour la première fois attachés. Plus que jamais, il émanait de lui une impression aristocratique, magnétique. Cette aura était accentuée par l'éclat immortel de ses yeux et les traits intemporels de son visage. Même sans connaître son âge, Takeshi aurait instantanément été subjugué par le sentiment d'ancienneté qui se dégageait de lui. Takeshi était loin d'être expert en matière de calligraphie. Aussi prépara-t-il le matériel sous le regard intransigeant et les instructions précises d'Akira qui ne pouvait toucher les objets. Il alla chercher un peu de neige, comme il le lui dicta, et attendit patiemment qu'elle fonde lentement au contact de sa propre chaleur. La dilution de l'encre, à l'aide du bâtonnet, était un processus simple mais délicat, particulièrement pour un novice comme lui. Takeshi ne l'avait pour ainsi dire jamais fait. Ses gestes étaient maladroits, inadéquats, jusqu'à ce qu'il sente la main glacée d'Akira se placer sur la sienne. Le fantôme s'était approché sans qu'il le remarque et se tenait à genoux à côté de lui. Là, c'est le fantôme qui parle. Je ne vais pas le faire « Laisse ma main te guider. » Voilà, « Laisse ma main te guider », lui dit le fantôme.
Merci beaucoup. Alors, pour que tout le monde comprenne le contexte de cette lecture, je vais encore parler un peu du livre avant de passer aux questions. Donc, un livre qui était un coup de cœur littéraire pour la rentrée, que ce soit Maëlle ou moi, on avait vraiment adoré ce roman. Donc, il nous raconte ici, ce roman, le destin le destin tragique d'une famille noble d'aristocrates, où l'on suit 5 personnages, et c'est un peu découpé sous forme de nouvelles, avec relié par un fil rouge, qui est le destin de cette famille sur plusieurs générations. Donc nous sommes totalement plongés dans un Japon féodal quelque peu fantasmé, dans un hiver qui se veut éternel. Clark Crust nous dépeint ici une véritable fresque de vie, où chaque nouvelle est comme une pièce de puzzle et le tout s'assemble parfaitement à la fin du roman. Nous suivons à tour de rôle Yuki, une adolescente rebelle qui est prête à tout pour sauver son frère aîné. Akira, un esprit, un fantôme qui ne sait plus vraiment où est sa place. Sayuri, une courtisane qui va devoir faire face à des responsabilités totalement inattendues. Takeshi, un jeune garçon téméraire et courageux, et enfin Seimei, un homme qui refuse de suivre le même chemin que son père. Donc tous ces personnages sont extrêmement touchants et très bien travaillés. Claire Cross nous plonge dans un univers totalement dépaysant, le Japon des shoguns et des samouraïs. C'est un conte délicat, intense et subtil, le tout dans une ambiance feutrée et poétique. On voit la neige et les kimonos, on découvre la beauté de la calligraphie. Alors, bonjour Claire Post. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît?
Alors, rapidement aussi. Alors, moi, j'ai 24 ans dans 5 jours. Et je suis étudiante à Lille, donc c'est en master, c'est métier du web, pour faire simple. Et j'ai toujours vécu là-bas, et donc c'est mon premier roman.
Très bien. Donc, ce premier roman, qui se passe au Japon, un Japon un peu imaginaire, est-ce que tu voulais écrire absolument au Japon, et ensuite l'histoire t'est venue, ou c'est d'abord l'histoire que tu as voulu expliquer, l'histoire de cette famille?
Alors, c'est d'abord l'histoire, mais pas celle de la famille, parce qu'en fait, à l'origine, il n'y avait que la première histoire, donc sur Yuki, l'adolescente. parce que je l'avais écrite au lycée, c'était pour un concours de nouvelles. Donc il y avait vraiment juste la première histoire. Et en créant le personnage, en créant l'histoire, je me suis dit, mais tiens, moi qui adore le Japon, en fait, ça irait vraiment très bien comme fond, comme esthétique. Et instinctivement, j'ai fait évoluer dans ce monde-là.
Du coup, vous avez créé plusieurs personnages. Est-ce qu'il y en a un qui a été plus difficile que l'autre? J'ai envie de dire, le personnage du fantôme. Est-ce que c'est facile de se mettre dans la peau d'un fantôme de quelqu'un qui est mort?
J'ai adoré le fantôme. Parce que à chaque fois que j'écrivais de son point de vue, je me lâchais complètement. Je dis, bah oui, mais il est mortel. Enfin, on va dire qu'il est mortel, il est beaucoup plus âgé, il est complètement... Enfin, il aurait pu disparaître, on ne sait rien. C'est pas forcément immortel, un fantôme. Et du coup, il est vraiment pas normal. Enfin, c'est pas comme une jeune adolescente où... Enfin, du coup, c'est un peu plus... restrictif, on va dire, avec lui, je me suis vraiment lâchée. J'ai fait ce que j'avais envie de faire.
D'ailleurs, c'est un personnage qu'on retrouve très régulièrement dans les nouvelles.
Oui, alors, je sais pas si c'est lui ou Yuki qu'on retrouve le plus.
Un des deux, c'est sûr.
C'est un des deux, j'ai pas compté les pages. Mais justement, en fait, au début, j'avais pas forcément prévu de le faire revenir. Et j'aimais tellement écrire avec lui que je me dis, mais il faut que je reprenne, il faut absolument que je reprenne.
Et alors, pourquoi l'hiver? Parce que toutes les nouvelles se passent en hiver. Toutes les nouvelles, il y a la neige, il y a le froid, il y a le blanc. Pourquoi ce thème?
Alors d'abord, je pense que c'est une question d'esthétique. De l'esthétique de la neige, de la poésie, de la pureté. Je trouve que ça collait très bien avec ces personnages. Et c'est aussi une question de temporalité. Ça fait quelque chose de très cyclique. D'ailleurs, à la fin du bouquin, on a un peu l'impression que la boucle est bouclée, c'était le but voulu d'ailleurs. Et on revient sans cesse sur les mêmes personnages, qui sont du coup à des années différentes, mais au même moment de l'année, pour les retrouver.
Alors que la chronologie, par contre, est totalement...
Oui, alors que la chronologie est, par exemple, la première histoire, entre la première et l'avant-dernière, il y a à peu près 150 ans qui se déroulent, donc...
Donc l'hiver relie tous les personnages.
Oui, on va dire ça. On m'avait dit un petit peu, c'est un peu comme un personnage en part entière. Et oui, je pense que oui.
Et comment s'est construit ce récit? Enfin, vous l'avez un petit peu dit. Donc c'est Yuki déjà qui s'est imposé. Plutôt, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et ensuite, pourquoi avoir fait sous forme de nouvelle quelque part? Parce que ça pouvait faire une histoire entière autour de Yuki. Pourquoi plusieurs personnages?
En fait, quand je suis revenue, donc quelques années après avoir écrit la nouvelle, j'ai eu envie de parler d'autres personnages, mais pas forcément du regard de Yuki, puisqu'en gardant Yuki comme narratrice, enfin, le regard était forcément biaisé et on ne pouvait pas entrer de la même manière dans la tête des autres. Du coup, je voulais vraiment trancher. Pour que ça fasse un petit peu comme des flashs, entre guillemets, où on change complètement. On est dans le même univers, mais on est à la fois dans la même histoire sans être dans la même histoire.
Ce qui donne une ambiance tout à fait particulière pour ceux qui l'ont lu, j'imagine qu'ils sont d'accord avec moi. Et justement, par rapport au fait que ça se passe au Japon, il y a des kanji qui sont mis en avant à chaque début de nouvelle. Et est-ce que ces kanji sont travaillés, sont recherchés? Est-ce qu'ils ont une signification particulière?
Oui, alors par contre les kanji, c'est pas moi qui les ai mis, c'est l'éditeur. Mais il est très bien fait. Ah oui, Gérard, toi là-bas.
Tu peux t'expliquer, Gérard?
Mais oui, par exemple, le premier veut dire neige, celui qui est au dos de la couverture, par exemple. Alors les autres...
Que Yuki, justement, veut dire neige, et c'est le personnage principal.
Alors, les autres kanji, d'après, je ne sais plus dans quel ordre ce qu'ils veulent dire, mais c'est un peu dans le...
ceux qui sont à l'intérieur.
Est-ce qu'il y a eu un gros travail de recherche, parce qu'il y a des mots employés, voilà, tatami, plus connus, mais il y a d'autres petits mots, les shoguns, etc. Est-ce que tu as fait beaucoup de recherches autour de cet univers?
Alors, il y a toute une partie que moi j'ai appris grâce au manga, au drama, au film historique, etc. Où justement il y a ce vocabulaire, shogun, etc. Où là on retrouve. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai écrit le livre juste avec ça au début. pour pas avoir de limites, pour pas me dire ah oui mais attends c'est vrai historiquement c'est pas comme ça, il faut que je change. Non, c'est après, je suis revenue dessus, j'ai laissé des trucs qui n'étaient pas vraiment historiques, c'est pas grave puisque de toute manière c'est un monde imaginaire. Parce qu'il y avait des... Par exemple, là, c'est pas sur une île. Par contre, pour l'architecture, les kimonos, la calligraphie... Bon, la calligraphie, je savais qu'il y avait un pinceau et de l'encre, c'est tout. Il a fallu... Oui, là, par contre, il a fallu que je sorte quelques livres de la bibliothèque pour en savoir plus.
Est-ce qu'il y a d'autres romans prévus et dans ce même univers, est-ce que vous allez réécrire dessus?
Alors, dans celui-là, je ne pense pas. Ou alors ce sera peut-être dans 10 ans si j'ai envie de reprendre les personnages, peut-être. Après, d'autres romans en dehors, oui, mais j'en dirai pas plus parce qu'ils sont pas forcément finis, il y en a plusieurs en cours, donc vous dire lequel sera vraiment abouti le premier, j'en ai pas la moindre idée.
Et sous forme de nouvelles ou un roman un peu plus classique
Non, plus classique, je pense. Oui.
Eh bien, merci beaucoup Claire Crust.
Donc un roman parfait pour la période hivernale avec la neige qui tombe à flots dehors. C'est pile le roman de la saison. C'est intéressant parce que du coup on a là donc deux jeunes auteurs, enfin c'est leur premier roman, mais ce sont deux premiers romans complètement différents. Un qui est très axé sur, outre le fait que ce soit fantastique et fantasy, un qui est très axé sur l'ambiance et les personnages, et l'autre qui est vraiment plus axé sur les personnages et les relations, de ce que pour l'instant j'en ai lu, et les relations sociales entre ces personnages-là et l'implication que ça va avoir après à plus grande échelle. Donc deux ambiances totalement différentes et deux univers aussi construits différemment et très intéressants. Donc après avoir vu la fantasy et le fantastique, on va se pencher un petit peu plus sur la science-fiction, mais sans vaisseaux spatiaux, sans extraterrestres et sans tous les clichés qu'on peut avoir en science-fiction, avec Alain Damasio. Je ne le présenterai pas si vous voulez avoir une présentation très détaillée. Je vous laisserai aller voir sur Internet pour voir l'honneur qu'on a de recevoir un homme grand comme lui. n'est-ce pas Mais globalement, pour mettre un peu dans l'ambiance, vous l'avez écrit... que, entre guillemets, quand on voit le temps que ça vous prend, deux romans, enfin publier deux romans qui sont déjà devenus des classiques, plus un recueil de nouvelles, donc qu'on a juste ici. Le roman La Horde du Contrevent, votre roman le plus connu, a eu notamment le Grand Prix de l'Imaginaire, ce qui est l'un des plus grands prix en France, et il a tout de suite été couronné de beaucoup de succès. Avant que Aymeric vous lise un extrait, j'aimerais juste partager un de mes sentiments vis-à-vis de vos textes, parce que beaucoup de personnes ont en tête que la littérature de l'imaginaire sont des littératures pour très enfantines et pas forcément bien écrites. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Alain Damasio, c'est que c'est l'exemple totalement opposé. On a un univers qui est très construit, très travaillé, et une langue aussi qui est extrêmement fouillée. Moi je vous comparerai à Tolkien. On dit que Tolkien est un philologue et a fait un énorme travail autour de la langue. Je pense que vous faites la même chose à l'échelle française. Vous avez énormément de néologismes mais qui sont compréhensibles même sans être encore rentré dans l'univers, et c'est vraiment, voilà, vous le verrez mieux avec l'extrait que Aymeric va lire, mais je tenais à préciser ce point là que non, les littératures de l'imaginaire ne sont pas que des littératures écrites avec les pieds.
Et taillez le fer, quoi! On appuie sec, bloc, bloc!
Le fer a fait une abattée sous l'intensité de la rafale. L'accélération est tellement énorme que les ailiers sont rabattus mécaniquement vers l'intérieur du pack. Ils s'efforcent de rester en ligne pour protéger l'arrière. Sauf ce recal d'un coup de rein et s'arc-bout. Tout le pack a verrouillé ses appuis et tient, pour l'instant. L'air est passé d'une épaisseur liquide à une consistance quasi solide. Chaque fluctuation frappe le bloc comme à la masse et le disloque. Le fauconnier s'est fait à nouveau faucher, rampe pour se déplacer, se relève et rechute. Accroche-toi, Darbon ! Derrière, les traîneaux décollent et partent en vrille. Ils tapent, tournoient, tapent. Décrochez les traîneaux, lâchez tout ! Non ! Lâchez-les ! Non ! Les casques et les oiseaux sont dedans ! Les Dubka en mousquetonnaient directement la poignée du traîneau sur leur harnais. Les 30 kilos de matériel voltigent dans leur dos. Soutenez les arches, étayez-le derrière. Il tient debout, tenez-le, il gîte. Il est à la limite. Ce fut le passage où la terre elle-même commença à se soulever par plaques. Ce qui fonçait sur nous n'avait plus de forme, mais une couleur rouge brique et un son de torrent froid en crue. Par quatre fois, Golgoth nous fit coucher. Par quatre fois, il nous fit relever et il nous tira par sa seule voix, par sa seule hargne, vers l'amont, alors que plus un seul ordier du pacte n'aurait eu le courage de contrer. Golgoth, insultez-le si vous voulez, mais ne le faites pas devant moi. Il demanda et il redemanda encore, inlassablement, si le cap était bon, et il l'était. Arriva le seuil où il n'était plus possible d'être debout et nous avançâmes, accroupis, assommés de sable et d'éclats de pierre, aveugles sous les casques de cuir et les bonnets, sous les bandes de tissu cerclés, sous les chapkas et les cagoules de jute qui amortissaient l'abrasion, pas le choc du blast. Une longue dévastation flottait, envahissait l'espace et nous étions perdus, hagards de fatigue, grêlés, complètement ahuris au milieu du bush, en pleine furie laminaire, en pleine montée à l'acmé. Des branches fléchaient à travers le rideau de briques, des objets inconcevables trouaient la masse de poussière surgissait. Et des hélices de nulle part, et des seaux, des filets éventrés, des sacs, tout ce qui avait cru pouvoir s'accrocher encore et comprenait maintenant, tout ce qui s'était cru suffisamment lourd sans l'être jamais assez, jusqu'à la coque d'un aéroglisseur, poussé mètre par mètre, jusqu'au vélichar fantôme qui passa à quatre pas de l'éarche, la voile bloquée, sans pilote, et qui filait indéfiniment vers l'aval. Là-bas !
Quoi ?
Là-bas, à droite ! Qui a parlé ? Silence ! Tribord, il dit, tribord quoi ? On n'y voit absolument rien ! Écoutez, écoutez attentivement ! Un instant, je crus que Silence délirait tant la vocifération du chenet occupa à nouveau tout le champ de l'audible, puis rien. Une brève plainte, une mince fibre mélodique à peine discernable de la frange du sensible, comme sinuant d'un rêve, se dégagea au sein du tronc hurlant. Pas une musique ni un bruit, encore moins une voix, non. Ça montait et descendait en fréquence, mêlé au froissement horrible, l'entrecoupant, y surnageant par instant, puis y replongeant. Qu'est-ce que c'est, Silanfre ? Vous l'entendez ? À peine, qu'est-ce que c'est ? Mon cœur faillit bondir hors de moi lorsque je compris. Ululant, oui, le faréole du port, la sirène éolienne qui guide les vaisseaux par gros temps. C'est ça, ouais, merde, bordel de Dieu, contre un crabe ! On vire à tribord en position au sol, sort Pietro, Step, Talberg et Erk sur le bord d'attaque avec moi le pack derrière. On se sert de la poussée frontale et on glisse. Sous la précipitation, on s'écroula, on se releva, on glissa un peu, très brièvement, on vola en éclats, on rampa au plus vite, à moitié noyé dans le sable, ribambelle errante, encore unie pourtant. Péniblement, avec Golgoth et Pietro, on devina une sorte de canal balisé tous les 50 mètres de roc percé. Des cairns sonores qui sifflaient au vent lorsqu'ils n'étaient pas encore bouchés de terre. De proche en proche, tel un vaisseau avarié, cherchant la voie du port, nous avançâmes plein sud, bâbord à mur, suspendu au ululement de ces cairns comme un guide nocturne qui aurait porté une chétive bougie, progressant sur les coudes dans les parties à découvert, courant dès que la zone était un peu abritée. Lorsque le canal s'interrompit, ne resta que la trompe, à présent dominante du faréole, seule, jouant pour elle-même dans l'immensité vide du bush. L'inespérée corne de brume nous appelait à elle, mécanique pourtant, mais à cet instant, plus humaine qu'une mère, plus précieuse que tout.
J'ai presque envie de clôturer la soirée sur ça.
Ouais, c'est cool, on va boire.
Merci pour cette mise en bouche du texte. Du coup, on va directement commencer sur la Horde du Contrevent. Bonsoir quand même.
Bonsoir.
Pour résumer en trois mots, parce que la Horde du Contrevent, comme vous l'avez bien entendu avec la lecture d'Emeric, est un roman qui se vit et non pas qui s'explique, donc je le raconterai en trois mots. Globalement, on suit à chaque génération un pack d'un certain nombre de personnes qui remontent leur monde jusqu'à la source du vent pour essayer de trouver la source de leur vie. Et là, on est avec la 33e horde, la horde de Golgoth, avec 23 personnages. Bon, j'en dirai pas plus, peut-être que vous voulez rajouter un mot sur ça. En tout cas, voilà, c'est un roman qui se vit. Et pour commencer, j'aimerais vous demander d'où vous est venue cette idée d'un monde balayé par des vents de plus en plus forts, plus on va. Donc, on a l'extrême amont et l'extrême aval, et plus on s'avance vers l'extrême amont, plus les vents sont forts et plus on s'approche justement de l'origine de toute vie selon les croyances populaires. D'où vous est venue cette idée ?
Bah, en fait, ce type de roman, il naît d'un double, sorte de double champ. Il y a d'abord souvent il y a un déclencheur, quoi. Il y a un déclic tout bête souvent. Là, c'était une lecture, c'est assez rare parce que je lis moi assez peu à part de la philo. Mais là, j'avais lu un texte que j'aimais beaucoup de Bradbury qui s'appelle La pluie, quoi, tout simplement. Et c'est à l'époque, on croyait que Vénus était complètement était une planète de pluie permanente. Et il raconte simplement l'histoire d'un petit groupe comme ça, d'une dizaine de personnes qui est sous une pluie diluvienne et qui essaye de s'abriter sous des coupoles solaires et qui se prend des cataractes en permanence sur la gueule. Et quand j'ai lu ce texte, en fait, les personnages n'ont aucune importance dans ce texte-là, mais la puissance de la pluie, la puissance de l'élément eau était prodigieuse, quoi. Et j'étais extrêmement touché par ça parce qu'on avait un texte inhumain, quoi. On avait un texte où la puissance d'attraction était sur un facteur inhumain. Et ça m'intéressait beaucoup. Et à l'époque, j'étais à Paris, je suis descendu dans la rue, acheter mon kebab habituel. Et mentalement, les choses souvent se passent comme ça, mentalement, j'ai basculé le plan vertical de la pluie, je l'ai basculé à l'horizontale. C'est-à-dire que souvent, quand une idée me touche, j'essaye de la tourner. J'essaye de la basculer dans d'autres registres, j'essaie de la décaler pour voir si ça produit des choses intéressantes. Et là, j'ai basculé mentalement le plan, j'ai vu la pluie m'arriver dessus, comme ça, et je me suis dit, mais j'ai envie de faire quelque chose sur l'air, j'ai envie de faire quelque chose sur le vent. Et j'ai tout de suite vu ce groupe, j'ai vu un groupe comme ça qui remontait devant. Et au début, j'avais que ça, hein. Pendant un an, j'ai eu absolument que ça. Je voyais, j'ai rien développé d'ailleurs pendant toute cette époque-là, je voyais simplement un désert immense, avec un groupe en position, je le voyais en position tout de suite comme ça de triangle, pour que ça soit aérodynamique. La goutte, c'est venu après. Et je voyais ce groupe qui remontait devant. Voilà, c'était tout ce que j'avais comme vision. Et après, et ça a été pareil pour la zone, ça vient percuter un autre champ, qui était un champ philosophique, sur lequel je travaillais depuis plusieurs années aussi, qui était lié à mes lectures de Deleuze et Nietzsche essentiellement, et qui était l'idée que, c'est propre à la philosophie contemporaine, c'était l'idée que on en a fini avec l'essence, on en a fini avec le stable, c'est-à-dire qu'on arrête de croire que la table, par exemple, est quelque chose de fixe qui ne bouge pas, ou que le livre est quelque chose d'ancré et de figé, et on considère qu'à l'origine de tout, il y a le mouvement. Voilà. C'est-à-dire que la table, c'est, chez Deleuze, c'est un processus de tabulation, quoi. Un arbre, c'est un processus d'arbrification, quoi. C'est-à-dire que rien n'est fixe, rien n'est posé, et tout procède d'un mouvement fondamental. Et ça m'intéressait beaucoup, parce que c'est une conception viscérale chez moi. Je crois que la fixité n'est qu'un ralentissement, n'est qu'une fatigue, n'est qu'une coagulation de ce mouvement du vivant, qui est fondamental. Et pour moi, le vent permettait vraiment de poser ça, métaphoriquement, de poser ça en incarnation. Et du coup, j'ai tout fondé sur le vent, j'ai fondé la cosmologie, l'ontologie sur le vent, et j'ai tout déplié, effectivement, à partir de ça. Donc souvent, c'est une idée, voilà, c'est une idée anecdotique qui croise un champ plus profond, plus philosophique, et qui fait que ça s'entretisse comme ça. Voilà, c'était un peu ça l'idée.
Belle idée. Et justement, sur cette idée de mouvement, dans le roman, il y a une énorme importance sur la ponctuation. Vous créez toute une ponctuation qui fait parler le vent. Ça vous est justement venu en métaphorisant cette idée. Vous l'aviez avant. Vous aimez travailler la ponctuation comme un personnage à part entière, finalement.
Alors là, c'est autre chose. Encore, c'est une réflexion vraiment sur la langue. C'est-à-dire que quand je me suis vraiment mis à écrire, au départ, j'ai fait La Zone et c'était surtout un livre à message. C'était un livre politique sur lequel les enjeux de style, pour moi, n'étaient pas fondamentaux encore, quoi. Et quand j'ai attaqué La Horde, j'avais déjà beaucoup plus de réflexion, j'avais beaucoup lu Mallarmé, je lisais que Mallarmé, j'écoutais que Mallarmé, parce que j'avais une cassette que j'écoutais en boucle, comme ça, sur les poèmes de Mallarmé. Et très vite, je suis arrivé à une sorte de certitude intérieure qui était que, finalement, l'écoulement d'une phrase, le fait que quand on lit une phrase, en tout cas en Occident, elle s'écoule comme ça de gauche à droite, et qu'elle est rythmée par les virgules, par les tirets longs, par la ponctuation, par ce qu'on appelle les syntaxes, c'est-à-dire les masses comme ça, les masses de syntaxe qui vont l'obstruer, la ralentir, etc. Ce mouvement de lecture, parce que c'est un mouvement, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne lit pas fixement, on lit en mouvement. Ce mouvement de lecture optique, c'était comme l'écoulement. Pour moi, c'était comme l'écoulement d'une eau. Et j'avais fait un texte comme ça, que je n'ai jamais sorti, qui parlait de l'écriture comme une sorte d'hydrologie, quoi, comme ça, comme un écoulement hydraulique, ou comme une rivière qui coule ou un ruisseau qui coule. Et je continue à vivre les phrases comme ça, c'est-à-dire que pour moi, il y a une amorce dans les phrases, il y a une pente. La pente, elle est assurée par la lecture, il y a une sorte de gravité naturelle qui est la lecture. Et ensuite, le travail de l'écrivain, pour moi, c'est simplement rythmer cet écoulement. Donc parfois, on crée une chute, on crée une cascade, parfois on crée des masques, parfois on accélère le débit, parfois on le ralentit, et puis l'eau, elle flotte, elle hésite comme ça. Parfois, il y a des contre-courants au sein de la phrase. Et toute cette gestion comme ça de l'écoulement de la phrase, c'est pour ça que moi j'adore les lectures et ça me touche beaucoup plus profondément que toutes les images qu'on peut voir, c'est qu'on entend ce rythme, on entend cet écoulement. Parfois ça accélère, on le voit dans la lecture des Démriques, parfois ça accélère, parfois il précipite, parfois il va re-ralentir, il va s'étaler un peu comme les fleuves qui tout d'un coup ne coulent plus. Voilà, et ça, c'était fondamental. Donc quand j'ai attaqué le vent, je me suis dit, mais le vent, finalement, c'est exactement la même chose, simplement c'est de l'air qui coule, quoi. Et ça m'est venu comme ça, l'idée de démarrer le roman, d'ailleurs, avec la ponctuation, c'était de dire, si j'enlève toute la chair, si j'enlève dans l'air toutes les particules de sable, tout ce qui charge le vent, qu'est-ce qui me reste? Il me reste les virgules, quoi. Il me reste les apostrophes, il me reste les ponctuations. C'est-à-dire, il me reste le rythme fondamental de la phrase dans, j'ai envie de dire, l'air pur, c'est-à-dire l'air pur dans la page, c'est le blanc, quoi. Voilà. Donc, je gardais juste les petits signes noirs dans ce blanc fondamental pour dire... Voilà les gars, vous allez lire ça, qu'est-ce que c'est? C'est comme accorder un violon quand vous voyez les concerts de musique classique, vous entendez le mec qui fait... Moi j'accordais mon violon, c'est-à-dire j'accordais le rythme fondamental d'écoulement, et c'est ça qu'on voit au début, voilà. Donc pour moi c'est juste un retour à l'essentiel, voilà. Il y a deux retours à l'essentiel, moi je trouve, dans l'écriture. C'est un, comprendre que la syntaxe est fondamentale, c'est une clé, c'est ce que dit Deleuze, et je pense que tous les grands disent ça, c'est que la syntaxe est la clé en écriture. Quand vous êtes sur le jet... Le mouvement de la syntaxe que vous imprimez sur votre phrase, c'est ce qui véhicule la sensation, c'est ce qui véhicule le concept, c'est ce qui véhicule la perception. C'est la syntaxe qui est dominante, c'est ça qui imprime le mouvement et c'est ça qui laisse à l'intérieur des gens une forme d'émotion particulière. Et ensuite, le deuxième niveau, qui est le niveau de la couleur pour moi et de la matière, c'est la phonétique. Voilà, c'est quel type de consonne vous utilisez, quel type de voyelle, qu'est-ce que vous portez? Est-ce que vous portez des plosives, des bas de gueule, des pas de gueule? Là, on les entendait claquer là, sur les blocs, les dislocs, etc. Et vous avez tout le champ comme ça des plosives qui vient éclater. Ou est-ce que vous rentrez tout d'un coup dans la douceur, dans quelque chose de plus féminin, de plus poétique, et vous êtes sur les LML, comme ça, vous êtes sur des nasales? Est-ce que sur la ligne des voyelles, voilà, vous allez être sur des sons très pointus, comme les I et les U, vous allez déchirer au maximum la matière? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes quelque chose de plus plat, plus moyen, j'ai envie de dire, sur les A, ou quelque chose de plus profond et de plus rond et de plus intériorisé, comme les on, les an, les O, etc. Donc ça, c'est un autre travail, j'ai envie de dire, c'est le travail sur la couleur. Mais si vous bossez syntaxe et couleur, vous arrivez à quelque chose d'intéressant, je pense, sur le travail stylistique, parce que vous travaillez sur la matière même du langage, quoi. C'est-à-dire que, moi je le dis toujours, sur l'écriture, on a un énorme problème en tant qu'écrivain, pour moi, c'est qu'on a un médium extrêmement froid. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte, quand vous avez des lettres noires sur une page blanche, c'est extrêmement froid. Ça véhicule en termes sensuels très très peu de choses. Quand vous écoutez une musique, tout de suite vous êtes enveloppé, ça fait vibrer quelque chose. Quand vous regardez un tableau, tout de suite il y a la vibration optique qui vient vous percher. Bon, sur l'écriture, vous n'avez pas cette ressource-là. Donc vous devez mettre d'autant plus de sensualité, d'autant plus de matière, d'autant plus de physique, et vous devez, j'ai envie de dire, rentabiliser au maximum les faibles capacités physiques qu'ont le médium pour les amener au lecteur. Voilà. D'où le travail sur la phonétique, d'où le travail sur la syntaxe. Pour moi, ça, voilà, c'est venu comme ça. Mais c'était une réflexion longue. J'écrivais pas pendant ce temps-là, mais c'était une réflexion longue où j'ai bossé là-dessus. Puis après, j'ai retravaillé la phonétique. Je suis reparti là-dessus. J'ai fait un gros boulot de fond sur le... J'ai réappris le boulot, en fait. J'ai appris le boulot. Et je pense que tous les artisans ont fait ça. À un moment donné, un potier, ben, il apprend tout. Il apprend à faire tourner. Il apprend la terre. Il apprend les émaux. Et il faut faire ce travail, quoi. Ouais, c'est sûr.
Réponse très complète. Merci. Et alors justement, j'en profite pour rebondir sur le fait que vous travaillez énormément la syntaxe, la rondeur des phrases, et tout mot finalement a un sens et une place précise dans une phrase. Je suis allée sur votre site, La Horde du Contrevent, et vous mettez un extrait de votre atelier personnel pour montrer comment vous retravaillez votre texte, donc pour montrer à quel point c'est... c'est quand même un travail de longue haleine, et après je vous poserai ma question. On voit notamment une phrase de la Horde du Contrevent écrite en 1997. Donc on a tout un paragraphe et qui finit par ils peuvent vivre au présent, nous gravons à même la mémoire pour nos journées futures. Et à côté, vous mettez dans vos notes que ce passage ne vous convient pas, donc je vais dire pourquoi, après je vous ferai passer si vous voulez voir plus en détail. Donc il s'agissait pour moi de transcrire une sensation plutôt nostalgique des Hordiers, celle de ne pouvoir goûter, comme les Fréoles, le sel de la vie, d'avoir trop peu de moments intenses à vivre, si peu que les rares qu'ils éprouvent, il faut les orpailler en soi, en garder les pépites pour l'avenir quand ils contrent seuls, en pleine steppe, sans joie. Et vous précisez après que vous éprouviez une sensation d'inachèvement avec cette phrase. Bon, je vais passer toutes les différences qu'il y a, parce que on voit qu'il y a vraiment un gros travail. Mais globalement, d'une phrase très très courte, finalement, on en vient à un paragraphe entier qui a complètement changé de narrateur et qui commence, je ne vais pas vous le lire en entier, je n'ai pas le talent d'Emeric, qui commence par nous, comment dire ? Nous finissons les fonds de verre, la lichée d'eau de vie, pas même pour l'ivresse, juste pour remplir une fiole. Jamais été doué pour les cul secs ou la répartie, le tac au tac. Les dialogues, je les finirai toute seule, plus tard, dans la litanie des collines, puisque je n'aurais pas su répondre ou quoi dire qui vaille, au milieu des landes, les finirai tranquille. Le paragraphe continue un peu, donc on voit que d'une phrase, vous en êtes passé à un paragraphe de plusieurs lignes, qui enfin vous convient. Et donc j'en viens à ma question, c'est quand on est aussi tatillon et perfectionniste que vous, quand est-ce qu'on se rend compte finalement qu'on a enfin la bonne phrase, le bon paragraphe et qu'on peut enfin passer aux 11 000 phrases qui restent du roman ?
Ça c'est une question abyssale et très complexe en fait, il faudrait une heure pour répondre à ça. Moi c'est une question que je me pose toujours, c'est de me dire, je ne la poserai pas comme ça, c'est-à-dire que une phrase, elle peut être travaillée indéfiniment. C'est-à-dire qu'aucune phrase de la Horde n'est parfaite, aucune phrase de la Horde ne va au bout de ce que je pourrais certainement faire, quoi. Parce que simplement, on a le temps du vivant en nous et qu'il faut vivre et qu'il faut avancer, qu'on ne peut pas éternellement fixer une phrase. Mais la question, c'est plus, qu'est-ce qui se passe entre le premier jet et la phrase définitive que vous laissez dans le livre, quoi. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et pourquoi vous éprouvez le besoin de travailler la phrase? Et surtout, qu'est-ce qui oriente la réécriture, tu vois? C'est une question qu'on pose jamais aux auteurs, et pour moi, c'est peut-être la question la plus importante à poser aux auteurs, c'est de dire, mais qu'est-ce qui vous guide au moment où vous réécrivez la phrase? Qu'est-ce qui guide la réécriture? Qu'est-ce qui guide cette espèce de montée en puissance vers une phrase qui va vous paraître, en tout cas, suffisante pour continuer et avancer sur le... Et c'est une question très, très difficile, très complexe. Moi, j'ai pas de réponse comme ça. La seule chose que je sais, c'est que le premier jet est décisif, quoi. C'est-à-dire que si j'ai pas, au moment du jet, l'énergie suffisante pour porter la sensation, je vais mettre un temps fou à réécrire le paragraphe. Je vais mettre un temps fou à ramener à un niveau à peu près correct ce que je vais véhiculer, quoi. Et donc, ça peut être tragique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis parti sur un jet qui n'est pas bon, j'ai pas l'énergie du jet, j'ai pas la sensation du jet. Par exemple, imaginons, je veux faire un passage de rage de Golgoth et je suis pas dans un moment de rage, j'ai pas la niaque et la rage en moi. Je vais mettre un temps fou à faire le passage. Parce que la syntaxe de départ ne véhiculera pas la rage. Voilà. Et donc c'est très complexe. Par exemple, sur le passage d'Aoi, c'était un personnage que j'écrivais quand j'étais en Corse. Donc je l'écris complètement isolé en Corse, ce livre. Et ce qui m'a sauvé, c'est que quand je passais d'un personnage à l'autre, je pouvais épouser des états émotionnels intérieurs différents. J'avais fait que du Golgoth pendant 3 ans en Corse, je me serais totalement épuisé au bout de 3 mois, quoi. J'avais fait que du Sob, j'en aurais ras-le-bol au bout de 2 mois, de l'Orochi, j'aurais bon, voilà. Mais en passant d'un personnage à l'autre, je me permettais à moi d'avoir une variété, d'avoir une sorte de biodiversité intérieure, d'état émotionnel, qui faisait que je survivais. Et les passages d'Aoi, tous les passages d'Aoi sont écrits dans des moments de fatigue et de nostalgie. Souvent, après ma balade de la journée, qui durait 2 ou 3 heures, je revenais à 7-8 heures, et à ces moments-là, j'étais hyper seul à l'époque, j'avais pas de copine, j'avais personne, machin... Et ouais, pleurer maintenant. et j'avais ce moment de nostalgie. Et du coup, j'utilisais cette énergie très particulière d'Aoi pour écrire ces passages. Par exemple, si vous lisez Aoi dans la Horde, si vous le relisez un jour, vous verrez que tous les passages d'Aoi sont en balancier. C'est-à-dire que là, le passage que tu as lu, il est parfaitement révélateur de ça. Il n'y a pas de connecteur syntaxique, il n'y a pas d'articulateur de syntaxe dans les passages d'Aoi. C'est-à-dire que tout est rythmé par des virgules. et par des syntagmes qui se répondent comme ça en balancier. Et tu le sens dans le mouvement, ça fait comme ça. Et après, tu as toute une dominante LMN sur Aoi, c'est-à-dire une dominante très douce dans le... Et ça donne cette sensation de mélancolie, de nostalgie, tu vois. Elle n'est pas en percussion, elle n'est pas là à articuler intellectuellement les choses. Elle les appose l'une à côté de l'autre et vous véhicule la sensation comme ça, tu vois. Et si tu ne sens pas naturellement cette syntaxe, si tu la fabriques arbitrairement ou en tout cas artificiellement, ça ne donnera rien. Il faut que moi, je sois dans ce mouvement d'oscillation, que je n'ai plus envie d'articuler intellectuellement les choses, comme je le fais sur Orochi, par exemple, ou sur Sob, que je ne suis plus dans la rage et la percussion permanente de Golgoth qui est sans arrêt en train de percuter les consonnes et qui sature de plosif tout ce qu'il fait. Quoi. Tu vois, on n'a que du peu-te-que et du peu-de-gueule sur Golgoth sans arrêt. Et c'est fatigant d'écrire Golgoth et c'est il faut le porter, tu vois. Et donc, il faut obéir à ça, voilà. Donc, si tu veux, la direction est liée à ça. Maintenant, je ne réponds pas à ta question en disant ça parce que, voilà, j'en sais rien, en fait. Pourquoi qu'est-ce qui sait que... Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à tel moment, je...
C'est une réponse parfaite.
Non, mais voilà, tu sais pas. Simplement, je crois que... Moi, plus ça avance, c'est marrant, mais c'est bien qu'on ait Aymeric là, mais... Parce que plus ça avance, plus je me rends compte que le boulot d'écrivain est un boulot de comédien aussi. C'est-à-dire que l'immersion dans les personnages et la qualité de cette immersion, à quel point j'arrive à descendre au fond de mes personnages, décide de la qualité des passages, et notamment stylistique, quoi. Et je dirais, peut-être mon guide, c'est de sentir que je suis dans le personnage ou que je suis pas, quoi. Tu vois, que je suis encore en bordure... Et que je n'ai pas encore descendu au fond du trou avec lui, quoi. Voilà, je ne suis pas encore à l'intérieur de lui, suffisamment à l'intérieur de lui, quoi, tu vois. Et moi, quand je lis les textes d'autres auteurs à des moments, c'est quelque chose que je perçois tout de suite, c'est est-ce que l'écrivain est dedans, vraiment, à l'intérieur, je dirais tout au fond de la poupée russe, ou est-ce qu'il est encore un peu à l'extérieur, ou est-ce qu'il est même sur l'image ou l'enveloppe extérieure du personnage. Et il y a des livres qui sont insupportables parce que tu sens que l'auteur n'a même pas fait... l'effort réel, on n'a même pas été capable de descendre vraiment dans le personnage et d'habiter le personnage. Et cette capacité de peuplement, elle est super importante, elle est clé. Après, vous pouvez le restituer ou pas, mais si vous n'avez pas fait ce boulot-là... Et donc, je pense que c'est plus par rapport à ça que je me situe, c'est-à-dire que je sens que je suis loin de mon personnage ou pas. Et il y a des moments, je sens que je suis un peu trop loin, surtout dans les romans, quand on débute le roman que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, des moments, je ne suis pas assez à l'intérieur, je sens que je suis en bordure et ça m'énerve énormément, ça m'agace énormément parce que... Parce que je fais pas mon boulot, moi je fais ça, et puis de toute façon le lecteur il va le sentir, quoi. Tu vois, il va sentir que.
Tu fais de la merde.
Tu fais de la merde, ouais, non, tu fais de la merde, mais tu le sens quand tu fais de la merde, hein. C'est très très net quand tu fais de la merde, tu le sens très bien. C'est un truc assez net, ça.
Très bien, merci. Bon, on va peut-être arrêter là sur la Horde du Contrevent, on pourrait poser 1000 questions, mais il n'y a pas que la Horde du Contrevent, et je voulais après amener vers des questions un peu plus générales sur votre implication dans l'écriture. Donc bon, La Horde du Contrevent est évidemment un roman à lire et à vivre. Et il y a notamment, ce que je trouve très intéressant, je ne reviendrai pas forcément là-dessus, parce que pareil, c'est à vivre dans une ambiance, mais l'édition grand format a un CD et une bande originale qui est vraiment intéressante d'écouter en lisant, parce que ça vous place dans une ambiance et vous vibrez avec les personnages, et vous prenez le vent en pleine face, et vous en... chier pour ne pas être très poli. C'est vraiment incroyable. Le poche est déjà très bien, rien que par l'écriture, mais c'est vrai qu'en plus on a la dimension derrière de la musique. Alors je finirai peut-être juste sur ça, sur La Horde du Contrevent. Est-ce que dès le début vous avez voulu le mettre en musique, ou est-ce que c'est venu justement à force de ce travail sur la musique du texte, la musique de la ponctuation? Et voilà, comment c'est arrivé cette musique?
Comme beaucoup de projets autour de La Horde, c'est venu de rencontres, c'est toujours comme ça. C'est des rencontres, c'est un ami que j'avais et qui était musicien et qui a eu envie de le faire, quoi. Et moi, j'ai eu des cartes blanches et on a dit allons-y, quoi. Non, ce qui est intéressant, là, un petit scoop quand même, c'est qu'on va se lancer dans la Horde sonore. C'est-à-dire dans le livre audio de La Horde, mais beaucoup plus qu'un livre audio, c'est-à-dire qu'on va mettre en son et en voix le livre. Et on va faire quelque chose d'assez costaud. On veut faire un gros morceau, un chef-d'œuvre en tout cas. On va essayer, un radar radiophonique, il y aura Aymeric dedans d'ailleurs. Et on aura des comédiens, ouais. On aura des comédiens de la Comédie Française, enfin ça va être très très... ça va être un gros travail, on va lancer un financement contributif, je vous le dis, là c'est un peu intéressé tout ce que je vous dis, un financement contributif en mars ou avril, là-dessus. Mais on a envie de faire quelque chose de très beau, parce que voilà, moi j'ai sur La Horde, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu des spectacles de théâtre, il y a eu des spectacles de chevaux, il y a eu de la danse, il y a eu la tentative de film d'animation Wind Walkers, il y a eu une tentative de jeu vidéo, enfin il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Mais moi, depuis le début, mon plaisir immense, c'est d'entendre le texte, voilà. C'est de l'entendre mise en voix. Et je fais beaucoup de travail de création sonore depuis maintenant 3 ans avec Florian Pochon et Tony Regnault à Montpellier. C'est des gens qui sont extraordinaires là-dessus. Et j'ai vraiment envie de l'entendre. Voilà, j'ai vraiment envie qu'on fasse ce travail en polyphonie avec une quinzaine de comédiens. Et avec des scènes, on ira, je pense, une cinquantaine de scènes du livre qui sont spécifiquement mises en scène par le son. Et puis le reste qui sera en lecture, j'ai envie de dire, plus naturel. Quoi, mais voilà, ça va être un beau projet.
Beau projet. Mars, alors.
Ouais, Mars, mais je vous enverrai, hein, vous aurez vos mails. Vous allez me laisser tous vos mails et puis...
On a pris les mails de tout le monde, on vous les fera passer.
Non, mais ça va être un très beau projet, on va se régaler à faire ça. Hein.
Très intéressant. Et alors, pour bientôt terminer, j'aimerais revenir, vous parliez tout à l'heure de philosophie, de Deleuze, etc., qui vous inspire énormément, et c'est principalement ce que vous lisez. On sent aussi dans chacun de vos romans, alors énormément dans La zone du dehors, votre premier roman, mais quand même beaucoup après, dans La horde du contrevent et dans les nouvelles, une implication militante, politique même, si je puis dire, et notamment, alors je fais un petit aparté, le recueil de nouvelles, Aucun souvenir assez solide, est absolument magnifique, les nouvelles sont très travaillé comme tout le reste. Par contre, je conseille de les lire à petite dose parce que c'est vraiment justement des nouvelles qui font réfléchir et il faut revenir dessus plusieurs fois. Lire, il y a 10 nouvelles, il me semble. Lire les 10 à la fois, ce serait trop dense et trop, on les savourerait pas comme il faut. Donc il faut les lire absolument, mais il faut les savourer et vraiment prendre le temps de pouvoir les emmagasiner. Et donc je reviens à ma question. Quelle est pour vous justement cette importance de toujours avoir une implication politique et militante sur des sociétés en devenir, soit un regard sur notre société un petit peu métaphorique?
Déjà, c'est ce qui m'a amené à écrire, quoi. C'est-à-dire que j'ai écrit mon premier livre pour des raisons complètement politiques, quoi. Voilà. C'est-à-dire que j'aurais jamais écrit un livre si j'avais pas eu cette espèce de rage de vouloir dire quelque chose sur notre société, en l'occurrence sur la société de contrôle dans laquelle on est entré dès les années 90 et dans laquelle on est aujourd'hui carrément immergé et noyé, quoi. C'est-à-dire qu'on est une société de traces, de traçabilité, de surveillance, de sécurité, de peur. Bon, et puis ça s'arrange pas avec ce qui se passe en ce moment, quoi, avec l'état d'urgence et tout ça. On est totalement emmailloté et... comment dire ça, englué dans cette logique de la peur et de la sécurité et du confort, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me révoltait, qui continue à me révolter dans l'existence contemporaine. Voilà, on a une société qui devrait être une incarnation de la liberté, une incarnation on devrait être des novas, on devrait être des soleils, tu vois, perchés à 1m75 de haut. On l'est pas assez, on n'est pas assez vivant, et alors qu'on a toutes les conditions, et surtout en France, pour l'être, et c'est comme si on avait peur de la liberté, comme je le dis dans la zone, c'est comme une fille magnifique et facile, on a peur de l'approcher, voilà. Et on a peur de se brûler à cette espèce de feu qui pourtant couvre au centre. Et dès qu'on se rapproche un peu trop de la liberté, on se dit « Oulala, attention, je vais avoir chaud, quoi. » Donc, ça reste fondamental dans ce que je fais. Je peux pas écrire un livre sans qu'il y ait une dimension politique. Sinon, j'ai pas envie de l'écrire. Voilà, ça m'intéresse pas de faire juste une histoire, raconter des histoires. J'ai pas ce goût de la narration suffisant. Il faut que pour moi ça porte un sens, ça porte une envie et que ça porte une transformation. C'est la très belle phrase de Lyotard, Jean-François Lyotard là-dessus, qui dit l'œuvre d'art, ça doit être un transformateur d'énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans un livre, qui rentre dans mon livre, en tout cas, moi j'ai envie de ça. Je veux qu'il sorte du livre avec une énergie différente, avec une énergie, j'espère, plus forte, plus intense, plus habitée. Et que le livre, qui est pourtant ce petit tas de lettres noires sur une page blanche, ça soit un convertisseur d'énergie, voilà, et que les gens sortent avec une puissance de vie plus grande qu'ils ne l'avaient au moment où ils sont rentrés dedans, voilà. Je trouve que c'est pareil pour un film, pour une musique, pour une création sonore. On doit véhiculer l'énergie, on doit rendre vivant ce qu'on fait, et on doit communiquer cette envie de vivre aux gens. En tout cas, moi, c'est le sens de ce que j'essaye de faire, et ça a forcément une dimension politique, puisque les pouvoirs établis ont bien sûr, comme dit Spinoza, ont intérêt à nous attrister, ont intérêt à nous faire peur, ont intérêt à nous donner l'impression qu'il ne faut pas trop qu'on bouge, parce que si on bouge, on va se faire mal, on va se blesser, on va avoir une guerre, on risque de se prendre une balle, etc. Voilà. Donc, c'est une réflexion sur la vitalité. De toute façon, moi je trouve que c'est extrêmement politique de dire essayons d'être profondément vivants dans un monde qui est prétendument libre et et dans lequel pourtant on n'arrive pas de fuir cette liberté là.
Alors encore deux questions pour finir. Une pour rester sur le recueil de nouvelles, parce que c'est vrai que les nouvelles sont tellement différentes dans les thèmes que vous traitez que ça touche forcément d'une manière ou d'une autre. Les écritures de ces nouvelles, est-ce qu'elles vous viennent par exemple de petites révoltes que vous vivez au quotidien? Est-ce que c'est plutôt des commandes, des appels à texte de base? Comment... Quel est le déclencheur pour les nouvelles que vous écrivez et comment est-ce que vous créez un univers très court, enfin sur un assez court mais quand même bien développé. C'est pas très clair ma question, je suis désolée.
Ouais, non, à l'époque j'étais un mec bien encore, c'est-à-dire je faisais pas de commandes du tout, je faisais que des textes que j'avais envie de faire moi-même, donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui vient souvent, c'est soit des choses qui m'exaspèrent absolument, par exemple le premier, les haut-parleurs ou le langage donc a été les multinationales ont privatisé le lexique et que chaque fois que vous utilisez publiquement un mot vous devez verser des royalties dessus. Ça c'est venu au moment où à l'époque c'était Itineris a racheté la marque Orange, c'est-à-dire où ils ont racheté Orange. Et à ce moment-là ils ont récupéré non seulement la couleur mais le mot, et c'était plus possible d'utiliser le mot Orange, que j'adore ce mot. J'ai toujours adoré ce mot, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a orage dedans, j'en sais rien, il y a ange dedans, il y a l'or, il y a l'ange, il y a l'orage, il y a la rage, il y a plein de choses à l'intérieur, et j'adore la couleur en plus, et quand ils m'ont comme ça, j'ai eu l'impression qu'ils me volaient un mot, quoi, voilà, qu'ils me le volaient, qu'ils me le préemptaient, et que j'allais plus pouvoir l'utiliser sans que les gens entendent la marque, quoi. Comme Hermès, on ne peut plus voir Hermès, on ne voit plus le dieu, on voit la marque. Vinci, on ne voit plus Léonard Vinci, on voit les parkings, quoi, tu vois. Et ça, ça me donne envie de gerber, quoi, vraiment, cette capacité qu'ont les multinationales de préempter le langage et de nous salir, en fait, quoi. Et ça donnait les haut-parleurs. Voilà, ça, c'était une inspiration, effectivement, de rage. D'autres, c'est totalement différent. Par exemple, So Far Away qui fait la couverture sur le... C'était plus une réflexion sur la saturation informative, ce qu'on appelle l'info-obésité sur Internet, c'est-à-dire le fait que tout le monde émet quelque chose, tout le monde a un blog, tout le monde a un Facebook, tout le monde a un Twitter, tout le monde émet du contenu, tout le monde émet des phrases, des pensées, des vidéos, des photos, et que dans un monde comme ça, on ne sait plus du tout où s'orienter, on n'arrive plus à émettre une toute petite lumière, on a envie juste de faire des trous noirs pour trouver la nappe lumineuse hyper saturée dans laquelle on vit et on existe, et c'était une tentative effectivement de le transformer métaphoriquement avec ces phares qui émettent dans la ville et qui font que deux personnes qui pourtant devraient pouvoir s'aimer et communiquer ensemble, ne sont même plus capables de s'envoyer un rayon lumineux que l'autre puisse percevoir parce qu'il s'est saturé par les nappes et publicitaires et l'émission de tous au niveau de cette ville, quoi. Donc, c'est une tentative d'incarner ça. Voilà. Souvent, en science-fiction, c'est la force de la science-fiction, c'est qu'on a une capacité d'incarnation. On rend les choses extrêmement physiques, extrêmement concrètes, et à partir de ce paradigme très concret, on crée des effets de réfraction, de miroir, fait que les gens s'interrogent après sur le monde dans lequel ils vivent et évoluent. Donc c'est ça, voilà. Après, chaque nouvelle a son histoire, quoi. C'était Captcha, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est une nouvelle très, très, très importante pour moi sur l'époque. C'était lié à la sentiment qu'on dématérialise absolument tout. On a dématérialisé la voix, parce qu'on enregistre tout. On dématérialise l'image, parce qu'on la véhicule. On dématérialise... le toucher, parce qu'il y a des modes vibreurs, tout est dématérialisé. Et quelle est cette pulsion de dématérialisation? Pourquoi on l'a en nous? Quel champ de désir l'habite? Voilà. Pourquoi on a un immense plaisir à circuler sur Internet à la vitesse lumière? Qu'est-ce qui nous fascine là-dedans, quoi? Qu'est-ce qui nous fascine dans les univers virtuels, dans cette espèce de liberté de vitesse que ça nous donne, et l'opposer à l'incarnation en chair, et de voir ce qu'on peut en faire. Donc c'est un texte que je trouve très moderne, par exemple, j'aime beaucoup ce texte. C'est des réflexions contemporaines, voilà. Ouais.
Merci. Bon, on n'aura pas eu trop le temps de parler de la zone du dehors, mais globalement, oui, c'est toujours un engagement aussi politique et une écriture très travaillée. Je finirai juste avant de laisser la parole au public, si jamais les personnes ont...
Il y a une lecture aussi.
Oui, il y a une lecture, bien sûr. Bien sûr, il y a une lecture finale d'une nouvelle que vous avez écrite qui est dans l'anthologie utopiale. Voilà, qui
peut-être
dans...
parler de ça.
Et ben, je vous laisse en parler.
Non, parce qu'il y a Jérôme Vincent ici, j'en parle pas, après il me nourrit pas. Bon, Oui, parler quand même de cette anthologie, des Utopias. Vous savez que chaque année, il y a un festival de science-fiction en France qui est un festival magnifique. Je crois que c'est le plus grand festival européen, non ? C'est pas ça, hein ? Du monde, hein ?
Du monde.
Du monde, ouais. et à cette occasion, ActuSF édite chaque année, là, depuis un bout de temps, maintenant, 5-6 ans, non ? Je sais plus. 7 ans, même. Un recueil de nouvelles. Et cette année, voilà, je travaillais d'ailleurs avec Emeric, on était une équipe de 6, on a travaillé sur un univers très particulier pendant un an, qui s'appelle Fusion. C'est ce qu'on appelle le développement d'un univers transmédia ou d'un univers, d'une bible d'univers, pour être exact. Alors la bible, je suis en train de la mettre en page en ce moment et c'est un peu l'horreur. Elle fait 700 pages à 4 quand même. Donc c'est, on a développé tout un monde, 24 personnages, une trentaine de récits, une quarantaine je crois de recherches scientifiques et sociologiques, philosophiques, mythologiques, etc. autour d'un concept de départ qui est très simple, qui est que la mémoire humaine, nos souvenirs seraient encapsulés dans les molécules d'eau de nos cellules, et que donc si on récupère de vous votre sperme, votre sang, votre salive, votre urine, vos larmes, etc., on peut accéder à vos souvenirs, aux souvenirs qui sont en vous, quoi. Donc c'est l'idée de l'eau mémoire. Qu'on a développé énormément sur beaucoup de champs, et pour en faire a priori des BD, des mangas, des films, des séries télé, etc. Mais avant tout ça, je vais en faire un roman. C'est là-dessus que je travaille en ce moment. Et le début de ce roman est dans ce recueil. Voilà les 60 premières pages qui forment une nouvelle et qui forment l'entame du roman, donc sont présents à l'intérieur de ce livre. Et ça me permet une super transition. Et donc, Émeric va nous lire peut-être un passage.
Je veux bien que tu l'introduises. En
fait, ouais, je vais l'introduire. Alors, simplement, le roman, c'est pareil, il y aura une grosse dimension politique. Ça se passe dans des sortes de Balkans imaginaires, dans une société très, très multiculturelle, dans laquelle le Front National local, on va dire, ou en tout cas les identitaires locaux, essayent de barrer l'accès aux migrants. Et dans ce monde-là, il y a un café qui s'appelle le Café Fusion, qui est un café extrêmement ouvert et justement qui est un café d'accueil de toutes les populations qui viennent. Trois personnages sont dans ce café, Charlie, Barry et Chalizé. Chalizé est la serveuse, Barry est le barman et Charlie est une sorte de bouffon, de caracole, on va dire, mais très particulier. Et dans ce monde-là, ils ont récupéré cette capacité avec l'eau légère de pouvoir effectivement accéder aux souvenirs des autres et les lire et les ressentir en eux. Parce que Charlie travaille à l'hôpital, mais ça va être confus hein, ce que je vais dire, c'est pas grave. Parce que Charlie travaille à l'hôpital mémoriel tout proche et a récupéré la masse, c'est-à-dire le sérum qui permet comme ça de révéler les souvenirs contenus dans le sang, les larmes, le sperme, etc. des gens. Et Barry, le barman, a une idée de génie. Il se dit, ben, on va faire des cocktails mémoriels, on va faire des cocktails de souvenirs. On va récupérer des bases de souvenirs, des souvenirs de colère, des souvenirs de joie, des souvenirs d'amour, des souvenirs je sais pas, par exemple, de peur. On va les mélanger avec du rhum, avec de la chartreuse, avec faire des punchs, faire des cocktails, faire des mojitos, faire des cailles pyrénées, qui mélangent ces souvenirs et ils les font boire aux gens. Voilà. Donc, au départ, c'est très sympa, c'est très drôle et c'est très léger. C'est une des premières fois que j'essaie de faire quelque chose d'un peu léger. Mais évidemment, ça se corse très vite et ça se durcit très vite parce que d'autres gens prennent conscience de l'existence de cette eau légère et vont l'utiliser à des fins de manipulation collective massive, notamment à travers le réseau d'eau potable, notamment à travers la distribution d'eau minérale et de soda et d'alcool aussi, de bière, etc. Et on va arriver à un travail de manipulation des mémoires, des communautés très forte, qui correspond un peu à ce qui se passe aujourd'hui par les réseaux. Voilà. Et le grand méchant de ce monde-là étant quelqu'un qui a racheté Google, qui a fait une fusion Facebook-Google, et qui est le roi du big data, et qui récupère en plus la capacité de manipuler les mémoires par l'eau mémoire. Voilà, donc c'est assez c'est une réflexion là-dessus, sur la manipulation des identités à travers les souvenirs et la mémoire. Mais on n'est pas là-dedans au début, on est simplement dans l'histoire d'amour entre Charlie et Chalizé. Chalizé donc qui est une émigrée iranienne qui a traversé la Turquie et pas mal de pays pour arriver jusqu'à Istayevo, qui est cette ville imaginaire que j'ai mis en place, et Charlie est éperdument amoureux d'elle, c'est une artiste, elle a refait toute la déco du Café Fusion, elle est extrêmement brillante, gracieuse, elle a énormément de ouais, on va dire, bien sûr de charme, mais surtout de capacité créative qui fascine Charlie, qui lui-même est un et quelqu'un de très inventif, quoi. Voilà, et Émeric va vous passer... C'est quoi ce... Alors, tu vas lire le passage du... Vas-y,
ouais. Le passage qui révèle tout ton inconscient, tes fantasmes.
Je crois que je vais utiliser le micro parce que j'ai plus de voix, je me suis pété avec Golgoth. Et qu'en plus, le passage est très doux, très poétique, donc on va faire avec ça. Elle se tourne vers moi et me prend l'épaule, mon cœur bat tout cadre. Son cou sent encore le vomi, mais même là, j'aurais envie de l'embrasser. Je vois à peine son visage dans le crépuscule, juste la flamme noire de ses cheveux, son petit nez, ses bras qu'elle étire. Et surtout, j'entends sa voix qui tombe, se déteindre, part dans l'aigu où s'aggrave, retrouve un peu de chaleur et s'émiette d'une phrase l'autre, et elle est en morceaux. Elle se recolle pourtant à la poigne autant qu'elle peut. Je te dirai jamais rien d'insultant, ni à toi ou à Barry, je viens de trop loin pour ça. J'ai traversé trop de saloperies, croisé trop de salopards pour ne pas honorer qui vous êtes. Justement, j'échalisais. J'ai essayé de faire des hypothèses. Tu as traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, le Monténégro et la Serbie pour venir ici. On a dû t'aider, peut-être t'agresser, peut-être te faire du chantage. Tu as pu être harcelé. J'ai été harcelé, et presque partout où j'ai passé, Charlie, il y a une chambre, un canapé pour moi offert, pas au hôtel, pas au camping pourri, où la bienvenue des messieurs était pure, n'avait pas des fantasmes derrière, des désirs d'avoir le retour, des retours mignons, pas très mignons, au pétain de dégueulasse. J'ai eu mon lot de salauds à pousser. Je me rappelle de tous, j'ai pas pu oublier ces types, tu sais, leur gueule, elle reste, elle fait des tâches, ça part mal sur la mémoire. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un du pays qui t'a retrouvé, un Iranien? Je lui aurais parlé en farsi, c'est ça? Tu m'as entendu parler en farsi? Non, je crois pas. Je peux pas être définitif là-dessus. Tu m'as dit que tu n'as jamais utilisé de passeur, c'est vrai? Je n'avais pas l'argent pour, et vu que je pouvais pas prostituer, j'ai pas eu le choix, Charlie. Je suis passé par la montagne toutes les fois que j'ai pu faire, en stop, petite route, avec des touristes, des familles. C'était le plus sûr, et les gosses m'adoraient. Je leur apprenais à faire des animaux avec le papier. Une fois, j'ai pu faire 1000 kilomètres comme ça dans un camping-car de Suédiens. Les Français, les Allemands, les Scandinaves, beaucoup sont sur la haute civilisation. La femme est dans l'humanité pour eux. T'as pas la moindre idée de qui a pu t'appeler? C'est forcément quelqu'un qui sort de ton passé. Tu as eu un retour de refoulé, très violent, très féroce. Une anamnèse involontaire mais provoquée. C'est quoi, anamnèse? Un souvenir qui remonte à la conscience, qui a été provoqué, tu dis, comme ça? D'après le docteur Bellam, ça peut être une voix, une image, une odeur, un mot même peut suffire dans certains contextes. Et ça redéclenche une scène traumatique, souvent atroce, que tu avais enfouie très profond dans ton inconscient, que j'avais essayé d'oublier, mais qui était là en moi, quelque part, une bête qui se cache. Bah oui, mais elle est iranienne, alors je sais pas. Oui. Et qui pourrait revenir, sortir sa cage encore, j'ai peut-être parlé avec son iranien. J'espérais qu'elle évite ce point. Fail. Ce qui inquiète le psy est que, comment te dire, d'habitude, dans ce genre de cas, le souvenir refoulé expose à la conscience. Il crée un choc, mais le patient est libéré, la trappe s'est ouverte, quoi. Et la bête est sortie pour toujours. Mais dans ton cas, dans mon cas, j'ai à nouveau tout refloué, c'est ça. La bête est toujours dans moi. Elle appuie sur son ventre. Sa voix vient de se casser en deux. Elle prend ma main et se blottit contre moi. Un lynx. Une goutte bleue sur mon avant-bras qui me fait sursauter. Elle pleure. Alors, contre moi, je la serre avec tout ce que j'ai d'amour pour elle. Je la serre comme si je pouvais. Juste avec ma chaleur, mes bras, ma douceur heurtée. Faire passer dans son sang mon fleuve, le déverser en elle, bruissant, par-dessus mon barrage, enfin crevé. Lâcher par mon corps tout ce que j'ai accumulé pour elle, d'émotions, dans ma petite crypte oblongue tapissée avec ses rires, ses frasques, ses trouées fragiles, ses soleils locaux. Je la serre comme si je tenais mon premier enfant dans mes bras ou qu'on m'avait confié pour la vie, à moi seul, le dernier lynx au monde. Finalement, elle se redresse en s'essuyant le visage avec le dos de sa main. Barry m'a dit que tu m'avais porté à bout de bras, couverte de vomi jusqu'au truck. Je sens qu'il sourit, je suis à 4 mètres au-dessus du bus. Que tu avais chaotisé tout l'hôpital pour qu'un chef me soigne. Une bonne cerveau, c'est très difficile à trouver, tu sais. Je n'aurais jamais comment dire merci. Dis-lui en farsi. Mamnoum. C'est joli. C'est toi qui es joli. D'un bond, elle se met debout, inattendue, sur le toit du bus et esquisse quelques gestes de capoeira, mais maladroit, sans équilibre et sans lien. Elle va mal, elle se rassoit en silence, son épaule touche la mienne, je voudrais être simple. Dis-moi quelque chose, Charlie. La courbe du toit est douce et si rouillée qu'elle m'accroche les doigts. J'ai peur que tu meures. Je ne vais pas mourir. J'attendrai que tu meures, toi, d'abord, et ensuite seulement je vais mourir. Ça te va? Ma bouche se ferme pendant que je hoche la tête, gorge nouée, et tends ma main ouverte. J'arrive à peine au milieu à articuler. Top là. Sa main tombe, cependant dans la mienne, si calme, puisqu'elle nous top. Elle y reste, lovée, dans ma paume, longtemps, longtemps. La durée explose, je suis là, enfin.
enfin complètement là et rassemblés sur ce toit, dans cette nuit, assis sur la tombe chaude de l'existence et de la joie qui dévaste. Je sais que je ne voudrais être nulle part ailleurs et avec aucune autre personne qu'ici sur ce toit avec elle. Sa main reste et fabrique du temps. C'est comme si je pouvais enfin recevoir le monde en moi, accéder à l'ouvert, cesser d'être un clown toujours en bâtardise d'être, toujours à côté de sa colonne vertébrale, toujours à glisser ses mains à côté des gants du toucher véritable. Je sens la nuit qui monte et se dépose en moi. Il pleut dans ma terre, dans mon corps meuble. Il pleut de la vie nue sur toute la surface défroissée de mon âme. Et ça me rend vaste, flaque, riche, lac d'une seule nappe, vaste à pouvoir sentir sonner chaque courte larme du ciel qui tombe et enfonce sa touche de piano en touchant ma peau phonolite. J'ai trouvé le courage. Ferme les yeux, chalisé, et ouvre une oreille sur deux. Je suis une radio pour toi seul. Je n'aimais que sur une fréquence à un mètre et en mono. Tourne le bouton, vas-y. Chalisé me tord gentiment le nez en limant la neige grésillante des stations, sa bouche plaquée et rit à peine un ruisseau. Ferme les yeux, vraiment, triche pas sinon tu n'entendras rien. Elle fait comme je dis, alors je regarde devant moi la ville qui luit et je me lance dans le vide. Tombée est désormais la nuit. Là-bas, la ville scintille mollement orange et blanche. Les lumières flottent dans la pollution pourrie et les buildings sont des damnés qui déconnent. Des phares bâtards, fixes et sans classe, qui savent même plus tourner la tête pour faire des clins d'œil comme avant. Tu entends des tirs de calage secs quelque part sur le port et ça ne fait plus rien à force, comme si je crachais des noyaux d'olive dans une assiette. À gauche, à 9h, quelques balles traçantes rayent la cité des Kurdes. Des ados qui jouent à être les adultes parce qu'ils n'ont plus de jouets. Au-dessus du maquis, juste là, les hirondelles trissent. C'est comme ça qu'on dit dans ma langue. Elles trissent, strient, crissent, crient, croissent, se cassent. Écrivent aussi, nous écrivent à nous deux, mais haut, trop haut pour qu'on les lise. Au sol, les grillons ont installé leur miracle. Celui d'être à eux seuls, le calme exact de la nuit. Quelle plénitude sur Radio Nous. Si tu ouvres maintenant les yeux, vas-y, pile en face de toi, tu verras qu'à 3 km, à vol de drone, les torchères de la raffinerie fondent dans l'oriflamme. Chalisé a un souffle rire ému, elle s'approche nez contre nez comme pour m'étreindre, en effleurant mes narines comme une inuite. C'est à quelle fréquence ta radio? J'aimerais bien l'écouter encore quelques soirs. 100.0, je crois. 100.0, et il faut forcément être à moins d'un mètre pour la capter. 20 cm, c'est la distance idéale en fait. Sans que je puisse les en empêcher. Mes pieds tambourinaient sur les montants du bus, presque aussi vite que mon sang dans les tempes. Ça faisait un foutu rythme, bim, boum, bam, bim, très intranquille. Que Chalisé me regardait fixement dans le noir, à ce moment-là, je l'ai senti. Elle a eu un vrai silence, un silence de gêne, de déception ou d'attente. Je ne saurais jamais. Je n'ai pas osé l'embrasser. J'ai relancé sur son exil, sur la menace, sur le fait qu'il faudra enquêter sur la paix, qu'on allait voir la police avec Barry, qu'elle devrait consulter un psy, qu'on allait la protéger. J'ai fui en me jetant encore et toujours vers elle, en niant mes désirs à moi, mon rêve tout simple qui était à un demi-bras de mes lèvres. Et le pire, que j'étais sincère, que sincèrement au cœur de ma petite boule de viscères, elle, sa vie, son art pulsif, la joie virale qu'elle dégage, son rayonnement splendide, avait plus de valeur pour ce café, pour cette ville, que pour mon existence de bouffon foireux. De laveur d'éprouvé et de carrelage d'osto, qu'il était normal, éthique même, que ça passe avant moi et ma misère affective, avant ce charlot qui n'avait pas le niveau et qui devait, qui doit se tenir là où il est le plus utile, en ami.
Qu'il y a des questions après ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui.
Alors, une réflexion, parce que ma femme récemment m'a dit qu'aux États-Unis, et c'est marrant, le futur roman, c'est qu'il y a un endroit où ils vont faire, et la séance est pleine, alors je ne sais pas combien de personnes qui étaient prévues sur cet atelier. Ils vont récupérer les larmes des gens et faire des cocktails avec.
Ah, c'est extra.
Et donc, je me suis dit, tiens, tu...
Ah, génial. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'idée.
Il y avait derrière,
il me semble. Il y a un micro. Oui, bonjour.
Donc c'est une question pour Demasio encore. Je voulais savoir, parce que vous avez parlé de l'univers transmédia, notamment sur le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Est-ce que pour la Horde du Contrevent, vous avez, vous l'avez pensé au départ comme justement un univers qui peut se transformer sur différents médias, même si ça n'a pas été fait avec en jeu vidéo ou en film, en série ou des choses comme ça, ou c'était juste vraiment un roman et qui...
Non, c'était vraiment un roman. Ouais. Un roman. J'ai pas du tout pensé à autre chose sur la Horde. Ça m'est venu après, c'est-à-dire quand j'ai fait le travail préparatoire de la Horde et j'ai vu les cahiers remplis, etc. Je me suis dit c'est dommage que c'est ce travail énorme qui ne se catalyse que sur un roman puisse pas se catalyser sur autre chose. Que on crée les univers, donc après ces univers ils pourraient très bien vivre en film, en BD, en manga, en fiction radiophonique, et ça m'est venu après cette idée, mais pas du tout au départ c'était un roman point barre. Quoi. La zone c'est pareil.
Bonjour aussi. Et c'était pour savoir, pour le monde de la Horde du Contrevent, d'où vous est venue l'inspiration, hormis celle de la planète Vénus sans arrêt battue par les pluies?
Bah, c'est ce que j'ai dit, hein, c'était un mélange entre cette inspiration-là de Bradbury et tout le champ philosophique sur le mouvement comme quelque chose de premier, et l'envie de faire du vent le cœur du roman, parce que le vent, il, dans le livre, il est à la fois intérieur, c'est le vif, il est extérieur, il est linéaire, il est bouclé dans les crônes, etc. C'est-à-dire que le vent habite et structure toute chose dans ce monde-là, donc c'est le fait de dire, voilà, je prends un élément et j'en fais le cœur de l'univers. C'est ça la clé de la création de ce livre. C'est vraiment un concept, en fait, hein. c'est un concept qui a créé le bouquin, hein.
Bonjour. Moi, je voudrais juste savoir comment vous sont venues toutes ces idées farfelues quand vous émettez tous ces palindromes dans la scène où Caracol se confronte au vieux sage. J'ai trouvé ça super drôle. Enfin. Voilà, je voudrais savoir comment vous les avez construits, ces palindromes.
Ah non, les palindromes, ça c'est vraiment, c'est marrant, c'est les seules choses que j'ai pas faites en fait, ou très peu. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on appelle en musique du sample, c'est-à-dire que j'ai pris les bouts de palindromes qui existaient, il faut savoir qu'il y a des sites comme ça, avec des gens qui passent, mais des fois je pense peut-être 2 mois à créer un palindrome, parce que c'est extrêmement compliqué, et j'ai pris les bouts, je les ai coupés en deux, parce qu'un palindrome, tu peux le modifier si tu coupes au milieu, tu vois, comme il est symétrique, c'est une symétrie centrale, le palindrome. Donc il faut, à partir du milieu, tu prends un petit bout de phrase et tu le dilates au milieu, tu vois, et tu modifies. Donc il y en a quelques-uns qui sont faits par moi, mais la plupart, je pense que 2 sur 3, viennent d'autres gens. C'est des palindromes très connus, hein, pour ceux qui sont dans le, tu vois, engage le jeu que je le gagne, par exemple, c'est un palindrome hyper connu, et que j'ai repris, après modifié, etc. Donc c'est plus un travail de DJ, j'ai envie de dire, que d'écrivain à ce moment-là, et les gens viennent me voir, etc. Je suis toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que... Voilà, c'est pas moi qui les ai créés, enfin en tout cas les 2/3, c'est pas moi qui les ai créés. Moi je me suis éclaté à en faire quelques-uns, mais c'est un boulot de fou. Hein. C'est des œuvres d'art, hein. Faut savoir que c'est des œuvres d'art, hein, les gens qui font ça. Donc voilà, c'est plus un jeu. Ce qui m'intéressait, c'est justement d'en faire un dialogue et d'en faire une sorte de battle, comme il y a des battles rap ou des battles de slam, et de réussir à faire un truc complètement délirant qui porte sur quelque chose d'archi littéraire et qui est totalement impossible mentalement, parce que si vous ne les avez pas en vous au départ, vous ne pouvez pas jouer avec comme ça. C'est impossible d'inventer un palindrome à cette vitesse-là. Et même si Caracol est fait entièrement devant, donc lui, il va extrêmement vite. Voilà, l'autre, le stylite, il a réfléchi sur sa colonne pendant un certain nombre d'années pour avoir cette banque de palindromes en lui et l'utiliser à bon escient, quoi, tu vois. Mais bon, c'était beaucoup d'éclat. C'est un chapitre, les gens me disent, ça a dû te prendre beaucoup de temps, c'était le plus dur, non? Et c'est le chapitre le plus facile que j'ai eu à faire, en fait, parce que... c'était du jeu. J'ai écrit en 15 jours celui-là, c'était beaucoup, beaucoup de jeux. J'écoutais Eminem en boucle à l'époque, c'était pour avoir le phrasé. C'est très intéressant d'écouter du rap comme ça, parce que tu te rends compte que, justement, il y a un travail rythmique très particulier sur des rimes intérieures, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des... Souvent, c'est marrant, hein, si vous regardez vraiment Eminem précisément, bon, déjà, c'est des enfoirés les anglo-saxons, parce que... ils fonctionnent sur des monosyllabes, c'est pour ça que le rap anglo-saxon est beaucoup plus facile à faire que le rap français. C'est qu'en France, c'est très rare d'avoir des monosyllabes, c'est-à-dire qu'on a toujours des bisyllabes. La plupart des verbes sont en bisyllabes. Eux, vous regardez les raps sur, allez, vous allez prendre sur 25 pieds, vous allez avoir une vingtaine de monosyllabes. Donc, c'est beaucoup plus facile à découper, à rythmer, et en plus, vous regardez en anglais, ça finit toujours par des K, des T, des G, c'est-à-dire qu'il y a toutes les plosives en finale. Donc, ça tape super facilement et super. Donc, ils n'ont aucun mérite de faire du rap en anglais, il n'y a aucun mérite. Non, honnêtement, hein, c'est beaucoup plus difficile, il faut admirer les rappeurs français. C'est beaucoup plus difficile en français à cause des. On a des finales beaucoup plus douces en français, et donc faire taper les choses, c'est assez complexe. Et par contre, ce que Eminem m'a appris, parce qu'on apprend de partout, c'est que en travaillant sur des rimes intérieures extrêmement proches, c'est-à-dire qu'il fait rimer des choses tous les deux pieds, par exemple. C'est-à-dire qu'il peut faire une grande laisse, et il va rimer sur tous les deux ou trois pieds, ce qui est des rimes intérieures que ne ferait jamais Mallarmé ou Baudelaire ou Rimbaud, parce que c'est considéré comme vulgaire. Vous voyez, de faire des rimes très courtes comme ça et très rapprochées, c'est vulgaire. Or, l'effet que ça produit en chant, ça produit des effets de staccato, quoi. C'est-à-dire, ça se vide. Et ce côté-là, je fais mal le staccato. Et ce côté-là est vraiment intéressant. Et du coup, ça m'a servi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'appelle les monosyllabes en quart. À un moment donné, il fait des solos sur syllabes avec les quarts, etc. Je fais revenir la syllabe le plus vite possible pour créer cet effet d'entraînement, etc. Donc c'est pas poétique au sens classique où on attend la fin de rime et où il y a une sorte de régularité comme ça dans la rime. Au contraire, on précipite à des moments et on crée quelque chose qui parfois est un peu chaotique, mais qui donne beaucoup plus de dynamique à la phrase. Et ça, c'est le rap qui me l'a appris. Donc j'ai écouté en boucle cet album d'Eminem, c'était très bien. Après, il a fait moins des bonnes choses. Mais celui-là, je l'avais vraiment, vraiment en tête. Ouais.
Merci. C'était pour rebondir sur cette histoire de poésie et de travail sur la langue. Est-ce que justement ce travail qui a été évoqué, qui est au cœur de l'œuvre, c'est pas une barrière insurmontable à ce qui serait une traduction éventuelle de La Horde notamment? Et je me demandais ce qui serait triste puisque c'est un chef-d'œuvre.
Non, c'est pas une barrière. La preuve, c'est que ça a été traduit en italien. Donc le livre existe en italien depuis déjà maintenant 8 ans. La traductrice a mis un an quand même à traduire, donc c'est chaud. ça a été une grande souffrance, je pense, pour elle. Et là, on a décidé, parce que le livre est malheureusement pas traduit en anglais, donc moi j'ai eu la chance de rencontrer par mail quelqu'un qui est un Américain, qui est un poète, qui a traduit beaucoup de poètes français, et qui adorait le bouquin. Je lui ai proposé de faire la traduction, il m'a dit ok, il a fait déjà 3 chapitres, et les 3 premiers. Et donc ils existent en anglais, on prie pour qu'ils puissent aller au bout, on cherche un éditeur anglais, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'il y a 50 livres français qui, par an seulement, sont traduits aux États-Unis. Toute littérature confondue, hein, faut quand même le savoir, quoi. Donc on est là, on est très fiers de nos 150 000 ventes de La Horde, et puis là-bas, tout le monde s'en fout. Donc on n'arrive pas à le vendre, ça fait 10 ans et on a épuisé 3 agents, et personne ne veut le traduire. Donc l'idée, moi c'est pour ça que j'ai poussé, je me suis dit, bon, si personne ne veut le traduire, on n'a qu'à le traduire nous-mêmes. Et puis on essaiera de le vendre comme un livre anglais, ou en tout cas de le faire éditer, alors qu'il sera déjà en anglais. Voilà. C'est compliqué parce qu'il faut payer bien sûr le traducteur. Il ne s'agit pas de le faire bosser gratuitement. Donc pour l'instant c'est moi qui le paye, donc c'est quand même assez ouf. Bon, l'éditeur m'insulte parce qu'il me dit mais c'est à moi de le payer, etc. Mais sauf qu'il ne s'est pas bougé pour le payer, donc pour l'instant c'est moi. En plus le traducteur est en dépression en ce moment, donc bon bref, ça n'a rien à voir avec la traduction, mais voilà, c'est le problème. Mais voilà, moi je suis très impatient de voir la suite, parce que c'est génial de le voir dans une autre langue. Là j'ai lu les 3 chapitres, je ne suis pas super brillant en anglais, mais j'arrive à lire ce qu'il fait, et surtout c'est un travail fabuleux parce qu'on le fait ensemble, c'est-à-dire qu'on fait des grosses sessions Skype de 2 heures comme ça, où sur chaque chapitre, il a plein de moments où il galère comme un fou, notamment sur Golgoth et Caracol, hein, c'est vraiment les deux personnages qui lui posent un gros gros problème. Et surtout plus encore Golgoth, parce que surtout il y a beaucoup de mots de Golgoth qui viennent du Percheron, hein, qui est quand même un langage provincial du XVIIIe siècle, rural en plus, que j'avais récupéré dans un truc qui s'appelle le Trésor du Palais Percheron. Donc ça, il ne peut pas le trouver. Et donc, il y a beaucoup de néologies, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'expressions idiomatiques très, très argotiques. Mais il me demande, et je lui explique, et à partir de ça, il arrive à le faire en anglais, et surtout, il respecte, et c'est ça la clé. Il respecte les sonorités, voilà, il respecte le rythme sonore, il a compris profondément, je lui ai expliqué chaque personnage, chaque rythme de personnage, quelles étaient les dominantes de consonnes et de voyelles sur chaque personnage, je lui ai tout expliqué, et du coup il arrive à appliquer ça, je trouve qu'il est brillant, il fait un super boulot, et donc c'est possible, voilà, après il faut trouver le bon, et là je pense que j'ai le bon sous la main, c'est pour ça que je ne veux pas le lâcher, et j'essaie de convaincre mon éditeur de surtout pas prendre quelqu'un d'autre, et voilà. Et en plus, j'ai une très bonne relation avec lui et je trouve ça un gars super. Voilà, donc j'espère que ça ira au bout. Mais c'est très difficile hein, pour un Français. On traduit énormément d'américains et d'anglais vers la France. L'inverse est extrêmement difficile. C'est là qu'on voit cette espèce de fascisme culturel mondial. Voilà, les anglo-saxons nous roulent dessus voilà, avec leur langue qui est parlée par 1 milliard de personnes. Et nous, on est avec nos 80 millions de francophones et on galère. Quoi. Voilà. Donc c'est dur, mais bon. Mais par contre, tout est traductible. Tu vois, à partir du moment où des gens ont traduit Mallarmé, où on traduit Rimbaud, etc., tout est possible, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est du temps, quoi. Et du coup, c'est des traductions qui valent évidemment cher, parce qu'il faut beaucoup de temps pour les faire, et c'est compliqué.
Merci. Allez, une dernière question.
Je vais parler fort.
Et bien, parler très fort.
Une question un peu naïve, est-ce que, comme certains auteurs, comme les amateurs de fourmis, de Rambule, vous avez fait une projection dans certains personnages, et si oui, dans votre façon de construire vos personnages, comme vous avez puisé dans vos émotions, vous aimez beaucoup la philosophie, est-ce que vous avez réfléchi dans le côté émotionnel à des nouveaux concepts philosophiques à travers leur
Ça, c'est une belle dernière question.
Vous savez, dans toute rencontre publique, il y a toujours la question qui tue, auquel vous comprenez rien. Non, vas-y, essaye de développer, parce que là, je pige rien. Ouais. Ouais, alors, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous parlez d'autre chose. Non, de ce que je comprends de ta question, après, c'est plus la question est profonde, plus c'est difficile d'y répondre. Ce qui est certain, c'est que tu es décalé sans arrêt quand tu écris. C'est-à-dire que si j'écris Golgoth, la rage de Golgoth, la colère de Golgoth, le personnage de Golgoth va m'amener ailleurs. Il va m'amener ailleurs dans ma pensée, dans ma perception, et je deviens quelqu'un d'autre. Et effectivement, comme je suis décalé et sorti de moi-même, moi j'adore cette expression, je suis hors de moi, tu vois. Être hors de soi, ça j'adore, c'est putain, il m'a mis hors de moi, tu vois. On devrait remercier les gens qui nous mettent hors de nous, tu vois, parce que c'est là que ça devient intéressant, tu vois, parce qu'on va vers l'inconnu, on va vers l'autre, on va vers quelque chose qui va nous changer, quoi. Et les personnages nous arrachent à nous-mêmes et nous amènent à vivre des choses différentes et nous changent, tu vois. Moi, la Horde m'a beaucoup changé parce que les personnages m'ont tiré à l'extérieur. Ce qui est marrant, c'est qu'au départ, tu les construis, mais après, c'est eux qui te sortent de tes rails, c'est eux qui te sortent de ce que t'es, tu vois. Et c'est eux qui t'aident à devenir quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, c'est un peu le miracle. Les gens qui n'écrivent pas, comprennent pas ce truc-là. Ils disent « Ouais, mais attends, c'est toi qui fais le personnage et tout. » Ouais, tu le fais. Moi, je me souviens, sur la Horde, les 9 premiers mois, il m'a fallu 9 mois pour entrer dans tous les persos. À partir du 9e mois, j'étais tellement dedans que c'est eux qui décidaient de comment ils allaient réagir à telle ou telle scène. Je savais les scènes, mais j'avais plus besoin de réfléchir. C'est Golgoth qui réagissait à la scène, tu vois. C'est Caracol qui réagissait à la scène. C'est Sof qui réagissait à la scène, tu vois. Et donc, c'est génial parce que tu deviens toi-même ce qu'on appelle polyphrénique, c'est-à-dire comme on dit schizophrénique, c'est-à-dire que tu deviens plusieurs esprits à la fois et tu deviens plusieurs personnes à la fois. Mais c'est pareil sur les comédiens, tu vois, c'est le même travail que le comédien. Donc oui, il se passe quelque chose de très particulier, tu vois, c'est là-dessus. Ça, c'est évident. Moi, je trouve que personne ne l'a mieux dit que Antonin Artaud là-dessus, quoi, quand il a parlé du travail d'un comédien de théâtre et qui dit « Nous sommes des athlètes affectifs », tu vois. Il dit « Le comédien est un athlète affectif ». Et ben moi, je vais vous le dire, un écrivain, c'est exactement ça. Et c'est exactement pour ça, c'est si difficile de faire un livre, si épuisant, si crevant, si bouffniaque que tu peux imaginer, c'est que c'est de l'athlétisme. Mais c'est un athlétisme affectif, émotionnel, sensitif. C'est-à-dire que tu vas puiser sans arrêt dans tes souvenirs d'enfance, sans arrêt dans tes histoires d'amour, sans arrêt dans les choses les plus intenses que tu as vécues pour pouvoir écrire, quoi, tu vois. Et ça te bouffe, quoi. Ça te bouffe la colère, t'avais machin, ça te bouffe tout, quoi, tu vois. Le passage que lit Emmerich, bah, j'ai été chercher dans mes histoires d'amour, évidemment, tu vois. Et ça m'épuise et ça me bouffe, et c'est de l'athlétisme d'aller chercher ces moments-là parce que je consomme de la matière émotionnelle qui est en moi, tu vois, et que je suis obligé d'aller retrouver. Et donc je suis obligé de me remettre pendant tout le moment où j'écris ce passage-là, qui peut durer 5, 6 heures, 10 heures, il faut que je sois à nouveau dans ces histoires d'amour. Et en plus, la particularité, c'est que ce n'est pas de la biographie pure, c'est de la biographie torturée, métamorphosée, tordue par le personnage lui-même, tu vois. Donc c'est un mélange d'imaginaire et de mémoire, quoi, tu vois. C'est un mélange de biographie, de passé et de projection, tu vois. Donc c'est un truc très bizarre, très tordu, tu vois, et qui t'éprouve beaucoup, voilà. C'est pour ça que, voilà, moi je fais peu de romans, machin, parce que ça te bouffe, voilà, c'est tout. C'est du taf, quoi, et c'est du taf affectif, quoi. Ouais, global, ouais, ouais. Mais cas par cas, tu vois, chaque personnage, tu te projettes dedans, et tu sors, quoi.
Merci. Alors, bien sûr, cette soirée arrive à sa fin, malheureusement, il faut une fin à tout. Éric, merci, vous nous avez transporté avec vous. Claire et Chloé, on souhaite une longue vie à vos romans et je vous souhaite bon vent.
Bravo! Bonne neige!
Alors là, Alain, c'est un magnifique cadeau que vous nous avez fait ce soir. C'est Noël avant Noël. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vraiment, merci mille fois. On vous attend bien sûr pour le prochain.
En mai, il sort en mai. Normalement. Ah oui, le roman sort en mai normalement.
Non, c'était une soirée que nous, avec Evelyne et Maëlle, nous avions rêvé. Le rêve s'est réalisé. Et donc ça, merci pour toi, merci Jérôme d'y avoir participé. Et puis je voudrais remercier aussi encore un dernier remerciement, c'est vous. Parce que sans vous, tout ça n'aurait pas de sens. Donc merci d'être venus aussi nombreux ce soir et revenez encore nous voir. Vous allez pouvoir passer à la dédicace. On vous a préparé aussi un petit encas de quoi boire, de grignoter aussi. Et je vous demanderai si c'est possible, c'est de passer avant en caisse pour que ça puisse se faire au niveau de la dédicace un petit peu plus, un peu moins précipité. Voilà. Merci à tous. Excellente soirée et un joyeux Noël et de bonnes fêtes à tous.